La loi est le sixième commandement, étude numéro 259. Il est écrit « Tu ne tueras point ». Cette étude explique la structure entière de la loi de Dieu telle qu'elle est appliquée à son commandement et telle qu'expliquée par les prophètes et les deux testaments conformément à la lecture de la loi dans les années de sabbat. Il est écrit dans Exode 20, verset 13 et Deutéronome 5, verset 17. Tu ne tueras point. La préservation de la vie se poursuit à la préservation du corps. Elle concerne l'injonction d'être saint et de se sanctifier soi-même. Comme nous procédons du cinquième commandement qui a établi la famille et la nation, ainsi de même la préservation de la famille et de la nation est enchâssée dans le sixième commandement. Le deuil pour les morts tel que pratiqué parmi les nations ne doit pas être trouvé parmi les familles d'Israël, voir Lévitique 19, verset 28. La mort naturelle de l'individu est conformément au plan de Dieu et rectifiée par la résurrection d'entre les morts, et Israël sera placé dans son propre territoire. Comparez Ézéchiel 37, verset 1 à 14, Apocalypse 20, verset 1 à 15. Israël doit être sans tache et sans défaut, et sa peau ne doit pas être marquée. Par conséquent, les tatouages et autres marques délibérées sur la peau sont interdits. Un esclave qui permettait de se faire percer l'oreille pour y placer une boucle était vu comme un signe de faiblesse. L'origine et l'organisation de l'État. Le pouvoir de vie et de mort repose en Dieu, comme nous l'avons vu de l'étude de la loi et du cinquième commandement, étude numéro 258. Dieu décrète les familles en tant que la base sur laquelle l'État est construit. Il décrète les pouvoirs les plus élevés et tout pouvoir vient de Dieu. Nous lisons dans Romains, chapitre 13, versets 1 à 7. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité ? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur, version 8 secondes. Dieu a donné son pouvoir à travers les tables de la loi qu'il a données à Moïse, voir Deutéronome 9, verset 11. Tous les rois sont ainsi exigés de faire leur propre copie de la loi avant qu'ils deviennent rois. Nous lisons dans Deutéronome 17, verset 18. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs les Lévites. Version 8 secondes. Dieu a établi les anciens d'Israël dans le pays, et la sagesse leur a été donnée par la puissance de l'Esprit Saint, tout comme Moïse avait reçu cette puissance. Nous lisons dans Nombre 11, verset 16 à 17. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Version 8 secondes. Selon Nombre 11, verset 26, Dieu s'est aussi réservé deux prophètes à l'extérieur du tabernacle d'Israël. Dieu ne fait rien sans avoir premièrement parlé à travers ses serviteurs les prophètes, qui sont ceux qu'il choisit lui-même parmi son peuple. Ainsi de même, les juges exécutent la sentence pour le Seigneur, voir 2 Chroniques 19, versets 5 à 7. Le roi est aussi choisi, et la puissance de l'Esprit lui est octroyée afin de gouverner Israël. Comparez 1 Samuel 10, versets 1 à 7. Les chefs ou les dirigeants du ministère spirituel d'Israël doivent être choisis par tirage au sort, voir Acte 1, verset 26. Actes 6, versets 3 à 6 montrent que les diacres et les anciens devaient être choisis parmi les frères. Les dirigeants physiques sont choisis par l'onction comme roi ou juge et par tirage au sort en tant que vote. Comparé Osée 1, verset 11, Luc 14, verset 28 et aussi les notes en bas de page de la Companion Bible. Nous lisons dans Deutéronome 1, verset 9 à 14. Dans ce temps-là, je vous dis, je ne puis pas à moi seul vous porter. L'Éternel votre Dieu vous a multiplié et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente mille fois autant et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Comment porterai-je à moi seul votre charge, votre fardeau et vos contestations? Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus et je les mettrai à votre tête. Vous me répondîtes en disant, ce que tu proposes de faire est une bonne chose. Version 8 secondes. Dans tout cela, il n'y a pas de fardeau réparti inégalement parmi le peuple, ou parmi les juges, ou parmi les animaux, ou parmi tout être que ce soit, ou dans la base même de la loi, voir Deutéronome 22, verset 10. La loi de Dieu ne doit pas être sous le joug des lois des nations. Elle ne doit pas non plus être diluée ou diminuée par les lois des nations. Le système de la loi de Dieu, son calendrier et son système d'adoration, ne doivent pas être sous le joug des non-croyants, voir 2 Corinthiens 6, verset 14. L'administration et le système judiciaire de tous ceux qui gardent l'Alliance doivent refléter fidèlement la loi de Dieu. Tout de la création doit être maintenu dans l'état pur, tel qu'il a été créé. Il ne doit y avoir aucune confusion de la création de Dieu en mêlant, tel que dans la création de mulets ou d'hybrides, voir Lévitique 19, verset 19. Ceux-ci sont interdits sous les lois de Dieu. Nous devons être un peuple pur et saint, sous des lois pures et saintes. C'est aussi pour préserver la vie. Un serviteur de Dieu, qui est chargé d'exécuter les lois et de les faire respecter ou de les administrer, doit recevoir sa récompense pour ses tâches hebdomadaires. On ne doit pas non plus priver un homme ou un animal de la jouissance de son travail. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 25, verset 4, « Tu n'en muselleras point le bœuf, quand il foulera le grain. » Version 8 secondes. Est-ce que Dieu prend soin des bœufs seulement? Comparez 1 Corinthiens 9, verset 9, 1 Timothée 5, verset 18, comparez Job 38, verset 41, Matthieu 6, verset 26, Matthieu 10, verset 29. Toutes choses sont pourvues sous les lois de Dieu si les nations les obéissent, voir Lévitique 5, verset 5 à 7. Les offrandes pour l'expiation et pour la transgression sont contenues dans les sacrifices du Messie. La justice s'étend aux païens et à l'ennemi aussi bien à un frère, voir Deutéronome 22, verset 1 à 4, Lévitique 20, verset 22 à 24. Nous lisons dans Exode 23, verset 4 à 5. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Version 8 secondes. De la même manière que nous devons être saints, de même aussi ceux qui demeurent avec nous doivent être saints. Nous sommes tous unis sous les lois de Dieu dans l'Esprit Saint. Nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Version 8 secondes. Il est écrit, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point, vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène au milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Voir Lévitique 19, versets 17 à 18, versets 33 à 34, Exode 22, verset 21. Le sixième commandement n'est pas seulement une injonction contre le fait de tuer. C'est une injonction de préserver la vie sainte pour le Seigneur, à l'intérieur des lois du Dieu vivant. La qualité ou les standards de vie ne peuvent pas être abaissés par l'injustice ou l'oppression ou par l'acception de personnes. Ainsi, la structure du commandement embrasse les concepts de l'attaque contre la personne et contre la propriété. Les provisions pour l'infraction du sixième commandement. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 19, versets 1 à 13. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura exterminé les nations dont l'Éternel ton Dieu te donne le pays, lorsque tu les auras chassées, et que tu habiteras dans leurs villes et dans leurs maisons, tu sépareras trois villes au milieu du pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. Tu établiras des routes, et tu diviseras en trois parties le territoire du pays que l'Éternel ton Dieu va te donner en héritage. Il en sera ainsi afin que tout meurtrier puisse s'enfuir dans ces villes. Cette loi s'appliquera au meurtrier, qui s'enfuira là pour sauver sa vie, lorsqu'il aura involontairement tué son prochain, sans avoir été auparavant son ennemi. Un homme, par exemple, va couper du bois dans la forêt avec un autre homme, la hache en main, il s'élance pour abattre un arbre, le fer échappe du manche, atteint le compagnon de cet homme et lui donne la mort. Alors il s'enfuira dans l'une de ces villes pour sauver sa vie, de peur que le vengeur du sang, échauffé par la colère et poursuivant le meurtrier, ne finisse par l'atteindre s'il y avait à faire beaucoup de chemin, et ne frappe mortellement celui qui ne mérite pas la mort, puisqu'il n'était point auparavant l'ennemi de son prochain. C'est pourquoi je te donne cet ordre. Tu sépareras trois villes. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura élargi tes frontières, comme il l'a juré à tes pères, et qu'il t'aura donné tout le pays qu'il a promis à tes pères de te donner. Pourvu que tu observes et mettes en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, en sorte que tu aimes l'Éternel ton Dieu et que tu marches toujours dans ses voies, tu ajouteras encore trois villes à ces trois-là, afin que le sang innocent ne soit pas répandu au milieu du pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, et que tu ne sois pas coupable de meurtre. Mais si un homme s'enfuit dans une de ces villes, après avoir dressé des embûches à son prochain par iniquité contre lui, après l'avoir attaqué et frappé de manière à causer sa mort, les anciens de sa ville l'enverront saisir et le livreront entre les mains du vengeur du sang, afin qu'il meure. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu feras disparaître d'Israël le sang innocent, et tu seras heureux. Version Louis II. Quand Israël est établi, il doit allouer trois villes de refuge pour quiconque a tué un autre accidentellement, de sorte que la vengeance ne soit pas faite sur le moment. Il ne doit y avoir aucun sang innocent versé. Des commandements doivent être observés et trois autres villes de refuge doivent être ajoutées. Cependant, là où la mise à mort est délibérée, entre parenthèses, c'est-à-dire un meurtre, alors cette personne doit être livrée pour le procès et la punition et la mort. Ainsi, à celui qui enfreint involontairement la loi, doit être donnée la protection de l'État à l'intérieur des villes de refuge. Si cela ne peut pas être garanti à l'intérieur des limites de la tribu, c'est la responsabilité de chaque individu et de l'État d'assurer la protection de tous les citoyens. La perversion judaïque de la loi biblique. Donc, l'étranger ou l'immigré doit aussi recevoir la protection de l'individu dans la société et l'aide doit lui être offerte en cas d'accident. La perversion de la loi biblique s'est produite dans le Talmud juif, à tel point qu'elle a attaqué la base même des lois de Dieu. On peut voir à quel point pervers les enseignements rabbiniques sont devenus par cette citation de Maïmonide. Citation. Concernant les gentils avec qui nous ne sommes pas en guerre, leur mort ne doit pas être causée, mais il est interdit de les sauver s'ils sont sur le point de mourir. Si par exemple l'un d'eux tombe à la mer, il ne doit pas être sauvé, car il est écrit « Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain ». Entre parenthèses, Lévitique 19, verset 16. « Mais le gentil n'est pas ton prochain ». Fin de citation. La Sanchino ne fait aucune référence à l'interprétation rabbinique dans son texte. parce que cette déformation inhumaine et injuste des Écritures est l'explication standard. La vraie citation est la suivante. Nous lisons dans Lévitique 19, verset 16. « Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. » Version 8 secondes. Ce texte, au verset 16, deuxième partie, est compris comme l'échec de rendre assistance pour sauver une vie. La Kumash de Stone reconnaît cette compréhension et dit « Si la vie de quelqu'un est en danger, vous devez essayer de la sauver. » Depuis l'époque de Jésus-Christ, les Juifs, dans les traditions, ont interprété « prochain » comme signifiant « juif ». Ceci est entré dans la pratique juive postérieure. Citation « Le fait de profaner le sabbat devient un devoir quand le besoin de sauver la vie d'un juif se présente. Le problème de sauver la vie d'un non-juif le jour du sabbat n'est pas soulevé dans le Talmud comme une question importante, puisque dans tous les cas, il est interdit de le faire même un jour de semaine. » Comparez le même ouvrage. Cette interprétation concernant les païens est peut-être le renversement le plus méchant de l'intention des Écritures. C'est la raison pour laquelle Christ a donné la parabole du bon samaritain. Car cette attitude était entrée dans le judaïsme même dans la période du Temple au premier siècle de notre ère. La soi-disant tradition loi orale, qui paraît-il a interprété ou influencé la Mishnah, à partir de laquelle sont dérivés les Talmuds de Jérusalem et babyloniens, était en réalité une série d'interprétations écrites. Elles ont été écrites pour justifier des traditions introduites au plus tôt dès l'année 160 avant l'ère courante. Elles n'ont certainement jamais été comprises dans l'histoire d'Israël, et certainement pas à partir de Moïse, comme la Bible le montre elle-même. Israël avait souvent oublié la loi écrite, sans parler de la soi-disante loi orale. Ces traditions étaient en grande partie contradictoires et beaucoup d'entre elles étaient des perversions de façon flagrante de l'Écriture. Nous lisons dans l'Évangile de Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain ? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui ». Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi fais de même. Version 8 secondes. À aucun endroit, les traditions juives n'ont autant perverti la loi que dans cette compréhension de l'obligation de préserver la vie et la présomption d'innocence. La présomption d'innocence. La présomption d'innocence est inhérente dans la Bible, et nul ne peut être mis à mort ou puni, sauf par le témoignage de 2 ou 3 témoins. Cela se retrouve partout à travers la Bible, dans tous les aspects. Pourtant, la Mishnah introduit le concept exactement opposé dans la 4e division, lors des dommages Sanhédrin 4, 1, E, partie 2. Citation. Dans les causes concernant la propriété, il commence, entre parenthèses argumente, la cause pour l'acquittement ou pour la conviction, alors que dans les causes impliquant la peine capitale, il commence seulement la cause pour l'acquittement et pas pour la conviction. Comparez le Mishnah, A New Translation, Jacob Neusner, Yale University Press, New Haven and London, 1988, page 589. Dans toutes les causes, la présomption d'innocence demande que les charges soient données. Et ensuite entendu et établi par la parole de deux témoins, et qu'il soit donné à l'accusé l'opportunité de les réfuter devant un tribunal composé de juges désignés et impartiaux dans tous les aspects, ne faisant pas exception de personne. Durant la période du Temple, les causes concernant la propriété étaient entendues par un tribunal de trois juges, et toutes les causes impliquant la peine capitale étaient entendues par au moins 23 membres du Sanhédrin, comme la Mishnah l'indique elle-même. Ainsi, toute décision dans les causes concernant la propriété pouvait être appelée devant un tribunal lorsqu'elle avait été déléguée pour les auditions préliminaires. Toutes les causes impliquant la peine capitale devaient être entendues devant un minimum de 23 membres du Sanhédrin même, parce que cela impliquait la peine de mort. Les appels étaient permis dans les causes avec témoins et aussi avec preuves dès cette époque-là. Pour cette raison, les assertions insidieuses des soi-disant lois noahides que le judaïsme essaie d'établir à partir du Talmud et qui permettent la conviction sur la déposition d'un témoin sont contraires à la justice et aux lois de Dieu. Ces idées et ces pratiques sont insidieuses, non bibliques et injustes. Ces mêmes concepts injustes sont à la base des systèmes judiciaires européens modernes où la personne est coupable jusqu'à ce que son innocence soit prouvée. Des listes de suspects peuvent être compilées et diffusées sans procès ou preuve ou jugement. Le Royaume-Uni a adopté cette iniquité parmi ses systèmes de maintien de l'ordre sans un murmure. Les résultats et les réformes de la guerre civile anglaise et des époques subséquentes sont perdus sans gémissement par des raisonnements puérils. Les gens qui ont accès aux dossiers peuvent détruire leurs ennemis et il n'y a aucune justice. À cause de cela, ainsi que les meurtres et l'injustice qu'il a permis, le Saint-Empire romain a été détruit et la Révolution a changé l'Europe en l'année 1850. Comparé Malachi Martin, The Decline and Fall of Rome Church, Secker et Wartburg, London, 1982, aux pages 250 à 256 et suivantes. À son tour, le christianisme a perverti la loi autant, sinon plus, qu'avait fait le judaïsme rabbinique. La loi de Dieu n'a jamais été fidèlement exécutée, sauf sous Moïse et David, et durant les courtes restaurations occasionnelles. Le christianisme n'a jamais vraiment été essayé, et encore moins testé correctement. De la même façon, quand Muhammad a essayé de réintroduire la loi de Dieu, et les quatre califes correctement guidés ont essayé de la mettre en application, elle a été sapée et détruite. La durée de l'islam a été aussi courte que le royaume de David. L'islam a été détruit par les hadiths, comme les conciles avaient détruit le christianisme, et la tradition et le Talmud avaient détruit la loi et développé le judaïsme. Babylone a régné pendant des milliers d'années. C'est la religion du Dieu de ce monde qui régnera jusqu'à la restauration qui vient. La responsabilité de donner la vie. Avec le concept du contrôle légitime de la vie, nous avons aussi le concept de donner la vie ou de faire vivre. Nous lisons dans Deutéronome 32, verset 39 « Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. » Version 8 secondes. Dieu n'a pas un autre Dieu avec lui, mais plutôt lui seul est Dieu et donne la vie et ôte la vie. Dans sa main est le jugement. Ainsi, le fait d'ôter la vie dans la création à partir de la chute est rectifié en donnant la vie à la résurrection. Consultez les études La doctrine du péché originel partie 1, le jardin d'Éden, étude numéro 246, La doctrine du péché originel partie 2, les générations d'Adam, étude numéro 248, et la résurrection des morts, étude numéro 143. Dieu est ainsi assujetti à ses propres lois et fait la restitution pour toute action qu'il a faite ou ordonnée dans le processus de la création. Nous lisons dans 1 Samuel 2, verset 6. L'Éternel fait mourir et il fait vivre, il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Version 8 secondes. Comparez Ésaïe 43, verset 13. Yahovah Elohim a insufflé de vie dans les narines d'Adam, voir Genèse 2, verset 7. Donc, aussi, à travers le même Elohim, nous recevons aussi le souffle de l'Esprit-Saint, comparé Jean 20, verset 22 à 23. Dieu condamne les gens à la mort pour le péché et l'infraction de la loi. De là, nous voyons que l'infraction du sixième commandement porte la peine de mort, qui est la sanction pour chaque cas des commandements de Dieu. La punition suprême pour l'infraction de la loi est la mort, du premier commandement jusqu'au dixième. Voir Exode 22, versets 22 à 24, Deutéronome 24, versets 14 à 17. Les commandements sont basés sur la restitution et la restauration, mais la peine pour l'infraction répétée et le refus d'obéir est la mort dans chaque cas. La nation a l'obligation de maintenir en vie les natifs, les étrangers et les immigrés dans son territoire. Nous lisons dans Lévitique chapitre 19, versets 9 à 10. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Version Louis II. La loi prévoit la protection des personnes handicapées contre l'agression et ceux qui en prendraient avantage. Nous lisons dans Lévitique 19, verset 14, « Tu ne maudiras point un sourd, et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu, je suis l'Éternel. » Version Louis II. La préservation de la vie et de la famille. Nous lisons dans Lévitique 25, versets 35 à 43. « Si ton frère devient pauvre, et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays, afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt ni usure. Tu craindras ton Dieu, et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt, et tu ne lui prêteras point tes vivres à usure. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan, pour être votre Dieu. Si ton frère devient pauvre près de toi, et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un mercenaire, comme celui qui y demeure. Il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. Il sortira alors de chez toi, lui et ses enfants, avec lui, et il retournera dans sa famille, dans la propriété de ses pères. Car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne seront point vendus comme on vend des esclaves. Tu ne domineras point sur lui avec dureté, et tu craindras ton Dieu. Version Louis II. L'usure est interdite à tous ceux de la foi, car par celle-ci, nous nous opprimons les uns les autres. Nous avons tous été rachetés, et donc nous devrions tous rendre gloire à Dieu en protégeant les uns les autres. Voir 1 Corinthiens 6, verset 20, comparé Exode 22, verset 21. Car Dieu est Elohé de Elohim, ou Dieu des dieux et Seigneur des seigneurs, Adonai des Adonim. Voir Deutéronome 10, verset 17 à 19, comparé la note en bas de page de la Companion Bible. La nation et la personne doivent être maintenues en vie, dans la liberté sous des lois justes. Nous lisons dans Exode 21, verset 1 à 6, « Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre, sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme, et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître, et il sortira seul. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Version Louis II. Ce poinçon est une marque de honte. Dans la 7e année, si un esclave veut s'en aller libre, le maître devrait le libérer, ainsi que sa femme. Aucun maître ne peut opprimer l'esclave ou l'ouvrier, il ou elle. Ce dernier doit recevoir une juste récompense pour ses, entre parenthèses, il ou elle, services. Voir Deutéronome 15, versets 12 à 15. Comment un homme peut-il être libéralement restauré et ses besoins pourvus, à moins que sa femme et ses enfants aussi soient libres? Ceci est la loi qui demande une restauration équitable et juste. Le point à être fait et que la servitude de lui est conditionnelle. Le maître n'est pas puni pour la générosité de son cadeau original, si c'était fait en service. Ces lois sont limitées aujourd'hui, mais seulement dans un sens général ce siècle-ci. La servitude et l'esclavage étaient communs jusqu'au XIXe siècle. La loi s'applique à tous les membres de la famille et la nation, et la responsabilité est sur les chefs et les propriétaires d'assurer le bien-être de tous ceux qui sont à l'intérieur de leur territoire. Nous lisons dans Exode 23, versets 10 à 11. « Pendant 6 années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit, mais la 7e, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. » Version 8 secondes. Par conséquent, nous ne devons pas tuer par négligence ou la faim dans tous nos territoires. Comparez Lévitique 19, versets 9 à 10. La responsabilité est de faire vivre toutes les parties de la communauté à l'intérieur de la sphère d'influence de l'individu. Aimer son prochain, comme soi-même, est un commandement qui s'étend à tous ceux dans notre sphère d'influence. Comparez la parabole du bon samaritain, voir Luc 10, versets 30 à 37. Notre soutien de notre prochain doit s'étendre au point que notre propre négligence doit être prise au secours du pauvre. Nous lisons dans Deutéronome 24, versets 19 à 22. « Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras pas ensuite les fruits restés aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne cueilleras pas ensuite les grappes qui y seront restées. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. » Version 8 secondes. Comparez aussi l'histoire de Ruth, chapitre 2. Dieu a protégé Israël dans tous ses vagabondages pour le garder vivant à titre d'exemple pour nous. Moïse raconte les vagabondages d'Israël dans Deutéronome 1, versets 1 à 46. Dieu s'assure que tous reçoivent de leur abondance dans leurs habitations et il bénit selon l'obéissance de la nation envers lui. Le bétail et le butin ont été pris, sauf dans les cas où Dieu a donné des ordres, l'interdisant expressément. Voir Deutéronome 2, versets 1 à 37. Le peuple ne doit pas avoir peur, puisque ses ennemis seraient vaincus et devaient être complètement détruits. Voir Deutéronome chapitre 3. Tout Israël est commandé d'aider les tribus dans toutes leurs possessions, ainsi qu'à prendre leur héritage. Aucune tribu ne doit refuser d'aider une autre dans l'exécution juste de la volonté de Dieu et l'établissement de la nation d'Israël. Aucune personne ne refusera d'aider quiconque à l'intérieur des tribus pour rester en vie, et aucune personne n'opprimera, ne vexera ou ne frustrera une autre personne. Aucune personne ne doit diminuer la vie d'une autre par l'usure ou toute forme d'oppression. Le droit à la vie et le droit de tuer appartiennent à Dieu. Dieu établit tout pouvoir et toute autorité. Le magistrat manie l'épée par la volonté de Dieu, comparé à Romains 13, versets 1 à 7. Nous lisons dans Tite, chapitre 3, versets 1 à 3. « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir et d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. » Version 8 secondes. Nous devons rendre hommage et honneur à celui que Dieu a élevé et à qui cela est dû. Cependant, la nation a le droit de préserver la vie oppressée par des lois injustes. Comparez Exode 11, versets 1 à 10. La mort est symbolique et le sang est utilisé pour indiquer la venue du Messie, dont le sang versé indiquait le fait de rendre vivante toute la race humaine. Le système sacrificiel a été institué pour pointer vers l'engagement à Dieu de la structure entière dans l'obéissance. De la même manière que la nation d'Israël a été maintenue en vie a été sorti d'Égypte par le sacrifice du sang de l'agneau de la Pâque, de même, le monde est aussi maintenu en vie par le sacrifice du Messie. Le sacrifice n'est pas une soif de sang dans l'Esprit de Dieu, mais plutôt un test d'empressement de la part de ses fils de sacrifier leur vie les uns pour les autres. Lisons dans Exode 29, versets 11 à 12. Tu égorgeras le taureau devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Tu prendras du sang du taureau, tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel, et tu répandras tout le sang au pied de l'autel. Version 8 secondes. Le Messie est entré dans le Saint des Saints une fois pour toutes avec son propre sang. Il a de la sorte ouvert le chemin pour que nous puissions y entrer et que nous devenions fils de Dieu avec puissance par la résurrection des morts, comme cohéritiers avec Christ. Comparez Romains 1, verset 4, Hébreux 9, verset 12. Le tabernacle était une réplique du sanctuaire céleste. Le temple nous représentait en tant que le temple spirituel, lequel temple nous sommes. Voir 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17. Israël a marché dans le désert pendant 40 ans, et tous ceux qui n'ont pas voulu partager la promesse sont morts dans le désert. Seulement Caleb et Josué, ont survécu. Ce fait représentait ceux d'Israël qui n'accepteraient pas la promesse. Les tribus ont mangé de la manne durant toute cette période-là, et ils ont bu de ce rocher spirituel qui était Christ. Il leur est apparu en tant que le capitaine de l'armée de l'Éternel pour les établir dans leur héritage à Jéricho après leur circoncision à Gilgal. Le temple physique a été établi pour durer jusqu'au Messie, et ensuite le physique a cédé au spirituel. L'Église entière, pendant les 40 jubilés dans le désert, n'avait pas d'autre sacrifice que les élus. Les 144 000 étaient les sacrifices des sabbats, des nouvelles lunes et des jours saints. Le sacrifice quotidien pointait vers la grande multitude, et la nuit vient avant le jour, le soir avant le matin. C'est pourquoi il n'y a seulement qu'un sacrifice dans le temple à Ézéchiel, parce que la grande partie de la récolte est déjà morte, et seulement ceux de la première résurrection sont ressuscités. D'autres sont à venir, voir Apocalypse 20, versets 4 à 15. Le sacrifice du soir est déjà ressuscité en tant que la grande multitude dans la première résurrection. Voir Apocalypse 7, versets 9 et suivants. Par conséquent, le sacrifice du matin, qui est aussi l'aube sous l'étoile du matin, est le seul des deux sacrifices quotidiens entrepris dans le système millénaire. Comparez Exode 46, versets 13 à 15. La longue nuit est passée. C'est aussi la raison pour laquelle il n'y a pas de sacrifice permis durant la longue nuit des 40 jubilés dans le désert, parce que la récolte est en cours et ils sont tous des pierres vivantes du temple durant cette période. Nous lisons dans Ézéchiel chapitre 46, versets 13 à 15. Tu offriras chaque jour en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Tu l'offriras tous les matins. Tu y viendras pour offrande tous les matins un sixième d'épha et le tiers d'un hin d'huile pour pétrir la farine. C'est l'offrande à l'Éternel, une loi perpétuelle pour toujours. On offrira tous les matins l'agneau et l'offrande avec l'huile comme holocauste perpétuel. Version 8 secondes. Le système sacrificiel pointe vers chaque aspect de la grâce salutaire de Dieu dans la rédemption du sacrifice du Messie. Il n'y avait pas un jour sans sacrifice durant la période entière du temple. Quand le temple à Jérusalem fut détruit, il y en avait toujours un à Éléphantine en Égypte durant la captivité babylonienne. Éléphantine fut lui-même détruit et le sacrifice limité là-bas par la suite. Le temple fut aussi construit par Onias IV à Léantopolis, dans l'ancienne région du Goshen, conformément à la prophétie d'Ésaïe, chapitre 19, verset 19, concernant les profanations qui devaient avoir lieu plus tard, jusqu'à la destruction de Jérusalem en l'année 70 de l'ère courante. Le temple à Léantopolis fut fermé par l'ordre de Vespasien en l'année 71 de l'ère courante. Comparez les signes de Jonas et l'histoire de la reconstruction du temple, étude numéro 13. La période du temple a duré 1000 ans, à partir de sa construction sous Salomon, jusqu'à l'établissement du Messie en tant que souverain sacrificateur, et de l'Église en tant qu'un sacerdoce sous l'ordre de Melchisédek. Ces 1000 ans étaient la période de 20 jubilés, symbolisée par les sacrifices du soir. L'Église est ensuite entrée dans le désert dans la longue nuit pendant laquelle il n'y avait pas de temple physique, et les sacrifices étaient les 144 000 constitués des 72 par an. entre parenthèses correspondant au nombre des sacrifices hebdomadaires, mensuels et des jours saints, sélectionnés au cours des 2000 ans ou des 40 jubilés. Les élus étaient les sacrifices vivants, et la grande multitude qui se tient avec eux, d'Apocalypse 7, versets 1 à 17, étaient les sacrifices quotidiens qu'aucun ne peut dénombrer. Ils se sont endormis par le Seigneur pour la première résurrection, d'où le symbolisme. Les sacrifices du matin, qui sont spécifiés dans le temple d'Ézéchiel, représentent la dernière période millénaire du règne de Jésus-Christ et des élus. Cette dernière période de 20 jubilés ou de 1000 ans, constituant la période de 4000 ans du temple, se termine par la seconde résurrection et le jugement et la venue du seul vrai Dieu dans la gloire de la cité de Dieu. Comparez Lévitique 1, verset 1 à 17 et les études, les grandes lignes de la chronologie de l'âge, étude numéro 272 et la cité de Dieu, étude numéro 180. Les offrandes devaient être faites à partir des troupeaux, entre parenthèses agneaux, chèvres ou bétail, ou des volailles, et être sans défaut. Et les offrandes devaient être volontaires. Les sacrificateurs devaient s'en charger, tel que prescrit. À part les sacrifices des élus les uns pour les autres, aucun sacrifice n'a été permis d'être offert pendant 2000 ans. Le temple a été délibérément détruit par l'autorité de Dieu, et le sacrifice n'a pu être offert. Tous ceux qui ont essayé de réintroduire le sacrifice ont été tués ou envoyés en captivité. Le salut est offert aux gentils et à tout Israël. Ceux qui essaient d'oppresser les gentils sous la loi sont détruits ou punis. Les offrandes pour le Seigneur, voir Lévitique 2, versets 1 à 16, ne sont plus faites par le sacerdoce d'Aaron, mais par le sacerdoce de Melchisédek, comparé Psaume 110, verset 4. Ils sont sans généalogie, sans détermination par la mère ou le père, mais ils sont sacrificateurs pour toujours sous leur souverain sacrificateur qui est le Messie, comparé Hébreux 7, versets 1 à 22. Les sacrifices étaient pour le sacerdoce dans l'ancien système, voir Lévitique 3, versets 1 à 17, Lévitique 4, versets 1 à 35. Les sacrifices sont le sacerdoce dans le nouveau système. Nous sommes rendus entiers par le sacrifice du Messie, la loi est écrite dans nos cœurs et dans nos esprits, voir Hébreux 8, versets 8 à 13. Nos offrandes sont de restauration, parce que notre souverain sacrificateur est assis à la droite de Dieu, voir Hébreux 8, verset 1 et suivant. Toutes choses qui sont tuées sous l'autorité et pouvoir de Dieu. Tout ce qui vit appartient à Dieu, le bétail appartenant à Dieu, et les chaudières à Jérusalem dans la restauration seront saintes pour le Seigneur, de même que toute vie. C'est lui qui ordonne que cela soit tué. Le sacrifice du Messie et l'offrande pour la transgression étaient l'exigence pour le nouveau sacerdoce entier. Aucune personne ne peut être un sacrificateur, sauf par l'offrande du Messie pour la transgression. Il est l'offrande de paix qui nous réconcilie avec Dieu, telle que démontrée dans Lévitique chapitre 7. Ainsi est sanctifié par conséquent le sacerdoce par les offrandes qui sont toutes reflétées dans le Messie. Le sacerdoce doit être lavé dans les eaux du baptême et revêtu de vêtements sans tache lavés dans le sang de l'agneau, et ils sont ainsi préparés en tant que sacrificateurs. Le sacerdoce a été sanctifié en commençant avec Moïse, voir Lévitique 8, verset 1 à 36, qui a dit qu'un prophète comme lui devait être suscité. À travers ce dernier prophète, la race humaine entière devait être rendue vivante. À partir du Messie, le sacerdoce a commencé à être préparé et mis en place. C'est ce que Moïse indiquait et ce qui a été accompli dans l'Église. La sanctification du sacerdoce est faite de la même façon que la sanctification du temple. Comparez l'étude de la sanctification du temple de Dieu, étude numéro 241. Ils, c'est-à-dire les sacrificateurs, sont sans levain, étant libérés du levain de la malice et de la méchanceté, et ils attendent le nouveau levain de l'Esprit-Saint. À partir du premier jour du premier mois appelé Abib ou Nissan, jusqu'au septième jour du premier mois, le sacerdoce et les élus sanctifient le temple, et ensuite les simples, et ensuite ceux qui sont dans l'erreur, au dernier, c'est-à-dire septième jour. Le sacerdoce est le temple sous l'ordre de Melchisédek. La tradition de l'observance du nouvel an, le premier jour du septième mois, appelé Rosh Hashanah, contrairement à l'ordre express de Dieu dans la loi, n'est pas entré dans le judaïsme avant le IIIe siècle de notre ère selon le rabbin Kohn, le grand rabbin à Budapest. Comparez l'ouvrage The Sabbatarians in Transylvania, 1894, édition White Cox, traduit par Thomas McElwain et B. Rook, 1998, publication CCG. Rosh Hashanah n'a jamais été observé dans la période du Temple. Le symbolisme entier de la sanctification du Temple empêchait un tel concept. Nous lisons dans Lévitique chapitre 9, versets 1 à 24. Le huitième jour, Moïse appela Aaron et ses fils et les anciens d'Israël. Il dit à Aaron, « Prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste, l'un et l'autre, sans défaut, et sacrifie-les devant l'Éternel. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, « Prenez un bouc pour le sacrifice d'expiation, un veau et un agneau âgés d'un an et sans défaut pour l'holocauste. Un bœuf et un bélier pour le sacrifice d'action de grâce, afin de les sacrifier devant l'Éternel, et une offrande pétrie à l'huile, car aujourd'hui l'Éternel vous apparaîtra. » Ils amenèrent devant la tente d'assignation ce que Moïse avait ordonné, et toute l'assemblée s'approcha et se tint devant l'Éternel. Moïse dit, « Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. » Moïse dit à Aaron, « Approche-toi de l'autel, offre ton sacrifice d'expiation et ton holocauste, et fais l'expiation pour toi et pour le peuple. Offre aussi le sacrifice du peuple, et fais l'expiation pour lui, comme l'Éternel l'a ordonné. » Aaron s'approcha de l'autel, et il égorgea le veau pour son sacrifice d'expiation. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang, il trempa son doigt dans le sang, en mit sur les cornes de l'autel, et répandit le sang au pied de l'autel. Il brûla sur l'autel la graisse, les rognons, et le grand lobe du foie de la victime expiatoire, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Mais il brûla au feu hors du camp la chair et la peau. Il égorgea l'holocauste, les fils d'Aaron lui présentèrent le sang, et il le répandit sur l'autel tout autour. Ils lui présentèrent l'holocauste coupé par morceaux, avec la tête, et il les brûla sur l'autel. Il lava les entrailles et les jambes, et il les brûla sur l'autel par-dessus l'holocauste. Ensuite, il offrit le sacrifice du peuple. Il prit le bouc pour le sacrifice expiatoire du peuple, il l'égorgea et l'offrit en expiation comme la première victime. Il offrit l'holocauste et le sacrifia d'après les règles établies. Il présenta l'offrande, en prit une poignée et la brûla sur l'autel, outre l'holocauste du matin. Il égorgea le bœuf et le bélier en sacrifice d'action de grâce pour le peuple. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang et il le répandit sur l'autel tout autour. Ils lui présentèrent la graisse du bœuf et du bélier, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, les rognons et le grand lobe du foie. Ils mirent les graisses sur les poitrines et il brûla les graisses sur l'autel. Aaron agita de côté et d'autre devant l'Éternel les poitrines et l'épaule droite, comme Moïse l'avait ordonné. Aaron leva ses mains vers le peuple et il le bénit. Puis il descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple, et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. À partir de la sanctification et de la mise à part des élus, les gens sont bénis de nouveau en séquence. La nation et la terre ne peuvent pas être touchées avant que le dernier des élus soit baptisé, scellé et mis à part, et ensuite la fin viendra. Voir Apocalypse chapitre 7, versets 3 à 4. Tout abattage est pour le Seigneur, et le sang doit être payé avec le sang, à moins qu'il soit fait saint pour le Seigneur. Nous lisons dans Lévitique 17, versets 1 à 6. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils, et à tous les enfants d'Israël, et tu leur diras, voici ce que l'Éternel a ordonné. Si un homme de la maison d'Israël égorge dans le camp ou hors du camp un bœuf, un agneau ou une chèvre, et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour en faire une offrande à l'Éternel, devant le tabernacle de l'Éternel, le sang sera imputé à cet homme. Il a répandu le sang, cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple. C'est afin que les enfants d'Israël, au lieu de sacrifier leurs victimes dans les champs, les amène au sacrificateur devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation, et qui les offre à l'Éternel en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur en répandra le sang sur l'autel de l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation, et il brûlera la graisse, qui sera d'une agréable odeur à l'Éternel. Donc, tout est fait pour la grande gloire de Dieu. L'abattage des animaux doit aussi être fait sous la supervision du sacrificateur. Dans la restauration, tout abattage d'animaux sera comme sacrifice saint pour le Seigneur, et les chaudières aussi seront saintes à l'Éternel. Voir Zacharie 14, versets 20 à 21. Comparez l'étude Le végétarisme et la Bible, étude numéro 183. Le fait d'ôter toute vie est fait par l'autorité de Dieu. Le sang est la vie, et il doit être répandu par terre. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 12, versets 20 à 28. « Lorsque l'Éternel ton Dieu aura élargi tes frontières, comme il te l'a promis, et que le désir de manger de la viande te fera dire « Je voudrais manger de la viande », tu pourras en manger selon ton désir. Si le lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y placer son nom est éloigné de toi, tu pourras tuer du gros et du menu bétail, comme je te l'ai prescrit, et tu pourras en manger dans tes portes selon ton désir. » Tu en mangeras comme on mange de la gazelle et du cerf. Celui qui sera impur et celui qui sera pur en mangeront l'un et l'autre. Seulement, garde-toi de manger le sang, car le sang c'est l'âme, et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Tu ne le mangeras pas, tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Tu ne le mangeras pas, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Mais les choses que tu voudras consacrer et les offrandes que tu feras en accomplissement d'un vœu, tu iras les présenter au lieu qu'aura choisi l'Éternel. Tu offriras tes holocaustes, la chair et le sang sur l'autel de l'Éternel ton Dieu. Dans tes autres sacrifices, le sang sera répandu sur l'autel de l'Éternel ton Dieu, et tu mangeras la chair. Garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, à perpétuité, en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu. Version 8 secondes. Le droit de l'État d'ôter la vie. Le droit d'ôter la vie est conféré à l'État, mais c'est délégué à l'individu dans certaines circonstances. Sous la loi, il y a un Goël, désigné comme vengeur du sang, ou comme sauveur à Israël, ou comme un payeur de rançon. La première mention est dans Genèse 48, verset 16, où cela s'applique à l'ange de la rédemption, qui était Elohim d'Israël. L'occurrence suivante du terme est dans Exode chapitre 6, verset 6, et Exode chapitre 15, verset 3, où le Messie était le sauveur et l'homme de guerre, pour ceux qui n'étaient pas d'Israël. Le terme est alors appliqué aux vengeurs de sang, sous la loi dans Nombre 35, verset 12, verset 19, voire Nombre chapitre 35, ci-dessous. La tâche était normalement assigné à un parent ou à un proche dans le contexte de la tribu, mais c'est le Messie et l'Élohim de la justice qui nomment l'exécuteur de l'État lorsque le besoin se présente. Aucun meurtrier ne doit mourir avant d'avoir été devant la congrégation en jugement. Afin de faire cela, il doit y avoir des villes de refuge et des places où une personne peut être protégée et jugée. Le contrôle de la vie dans la paix. Toutes les lois de la propreté sont données pour la préservation de la vie. L'ignorance n'est pas une excuse sous la loi. Nous lisons dans Lévitique chapitre 5, versets 2 à 3. Lorsque quelqu'un, sans s'en apercevoir, touchera une chose souillée, comme le cadavre d'un animal impur, que ce soit d'une bête sauvage ou domestique, ou bien d'un reptile, il deviendra lui-même impur, et il se rendra coupable. Lorsque, sans y prendre garde, il touchera une souillure humaine quelconque, et qu'il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable. Version 8 secondes. Certains aspects du sacrifice appartenaient aussi uniquement au Seigneur. Cela agit comme une punition et ils seront restaurés comme punition dans le système millénaire. Cet aspect est distinct de la législation sur la propreté qui fait partie des lois de vie pour rendre entier ou rendre vivant. Nous lisons dans Lévitique chapitre 7, versets 21 à 27. Et celui qui touchera quelque chose d'impur, une souillure humaine, un animal impur, ou quoi que ce soit d'impur, et qui mangera de la chair du sacrifice d'action de grâce qui appartiennent à l'Éternel, celui-là sera retranché de son peuple. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, Vous ne mangerez point de graisse de bœuf, d'agneau, ni de chèvre. La graisse d'une bête morte ou déchirée pourra servir à un usage quelconque, mais vous ne la mangerez point. Car celui qui mangera de la graisse des animaux dont on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, celui-là sera retranché de son peuple. Vous ne mangerez point de sang, ni d'oiseaux, ni de bétail, dans tous les lieux où vous habiterez. Celui qui mangera du sang d'une espèce quelconque, celui-là sera retranché de son peuple. Version 8 secondes. Les effets à long terme de la consommation du gras et du sang sont maintenant bien connus. Une telle conduite est interdite sous la législation dans la prolongation de la vie. Tout abattage ne doit être que pour se nourrir, pour la préservation de l'équilibre ou de la propriété, et cela doit être fait en accord avec des lois justes. La préservation de l'environnement est autant une responsabilité de l'individu que la protection d'autrui contre la négligence sur la propriété ou dans la construction. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 22, versets 6 à 8. Si tu rencontres dans ton chemin un nid d'oiseau, sur un arbre ou sur la terre, avec des petits ou des œufs, et la mère couchée sur les petits ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mère et les petits. Tu laisseras aller la mère et tu ne prendras que les petits, afin que tu sois heureux et que tu prolonges tes jours. Si tu bâtis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit, afin de ne pas mettre du sang sur ta maison, dans le cas où il en tomberait quelqu'un. Version 8 secondes. Le sang de toute créature est sur celui qui le verse. Il existe une obligation de protéger les gens pour éviter les pertes de vie ou les blessures avec des objets potentiellement dangereux. Dans ce cas, un rempart érigé sur un toit et par la même extension une clôture autour d'une piscine pour protéger les plus jeunes sont une précaution nécessaire. De la même façon, l'échec de prêter assistance à une personne en difficulté est une infraction de l'intention de la loi. Il n'y a cependant aucune condition de mettre en danger ou de perdre sa propre vie à cet égard. Contrairement au judaïsme rabbinique, il y a une obligation d'essayer de sauver la vie. Les maladies. Le contrôle de la maladie est une partie importante dans la préservation de la vie. Le sixième commandement s'étend aussi à tuer par la transmission de la maladie. L'individu a la responsabilité de s'assurer qu'il n'est pas un risque pour les autres, par son manque d'observer de simples procédures de mise en quarantaine. La naissance d'un enfant place le parent dans la nation, sous l'alliance et sous la législation de purification. Voir Lévitique 12, versets 1 à 8. Nous lisons dans Lévitique chapitre 12, versets 1 à 8. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sein. Elle ne touchera aucune chose sainte et elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant 2 semaines, comme au temps de son indisposition menstruelle. Elle restera 66 jours à se purifier de son sein. Lorsque les jours de sa purification seront accomplis, pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation un agneau d'un an pour l'holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur les sacrifiera devant l'Éternel et fera pour elle l'expiation et elle sera purifiée du flux de son sang. Telle est la loi pour la femme qui enfante un fils ou une fille. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un pour l'holocauste, l'autre pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur fera pour elle l'expiation et elle sera pure. Version 8 secondes. Les lois de purification font une distinction entre les enfants mâles et femelles. Cet aspect n'a pas encore été recherché adéquatement par la science afin d'établir sa base précise. Comme toutes les lois, il y a une base précise pour cette loi. Son but est peut-être de protéger la mère ou l'enfant contre divers désordres chimiques qui induisent la maladie ou qui les rendent vulnérables à la maladie. La question entière de purification des femmes est traitée dans l'étude Purification et circoncision, étude numéro 251. La quarantaine est une partie sérieuse et nécessaire de la vie. C'est la responsabilité de la société et de l'individu. Les lois sur la lèpre montrent l'importance et les exigences d'une quarantaine stricte. Même si nous pouvons maintenant guérir la lèpre, la loi demeure et la quarantaine est obligatoire. Nous lisons dans Lévitique chapitre 13, versets 1 à 59. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit « Lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. S'il y a sur la peau du corps une tache blanche qui ne paraisse pas plus profonde que la peau et que le poil ne soit pas devenu blanc, le sacrificateur enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie. Le sacrificateur l'examinera le 7e jour. Si la plaie lui paraît ne pas avoir fait de progrès et ne pas s'être étendue sur la peau, le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant 7 jours. Le sacrificateur l'examinera une seconde fois le 7e jour. Si la plaie est devenue pâle et ne s'est pas étendue sur la peau, le sacrificateur déclarera cet homme pur. C'est une dartre. Il lavera ses vêtements et il sera pur. Et si la dartre s'est étendue sur la peau, après qu'il s'est montré au sacrificateur pour être déclaré pur, il se fera examiner une seconde fois par le sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. Si la dartre s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur, c'est la lèpre. Lorsqu'il y aura sur un homme une plaie de lèpre, on l'amènera au sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. S'il y a sur la peau une tumeur blanche, si cette tumeur a fait blanchir le poil, et qu'il y ait une trace de chair vive dans la tumeur, c'est une lèpre invétérée dans la peau du corps de cet homme. Le sacrificateur le déclarera impur, il ne l'enfermera pas car il est impur. Si la lèpre fait une éruption sur la peau et couvre toute la peau de celui qui a la plaie, depuis la tête jusqu'aux pieds, partout où le sacrificateur portera ses regards, le sacrificateur l'examinera. Et quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps, il déclarera pur celui qui a la plaie. Comme il est entièrement devenu blanc, il est pur. Mais le jour où l'on apercevra en lui de la chair vive, il sera impur. Quand le sacrificateur aura vu la chair vive, il le déclarera impur. La chair vive est impure, c'est la lèpre. Si la chair vive change et devient blanche, il ira vers le sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera, et si la plaie est devenue blanche, le sacrificateur déclarera pur celui qui a la plaie. Il est pur. Lorsqu'un homme aura eu sur la peau de son corps un ulcère qui a été guéri et qu'il se manifestera à la place où était l'ulcère une tumeur blanche ou une tache d'un blanc rougeâtre, cet homme se montrera au sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. Si la tache paraît plus enfoncée que la peau et que le poil soit devenu blanc, le sacrificateur le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre qui a fait éruption dans l'ulcère. Si le sacrificateur voit qu'il n'y a point de poil blanc dans la tache, qu'elle n'est pas plus enfoncée que la peau et qu'elle est devenue pâle, il enfermera cet homme pendant 7 jours. Si la tache s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur, c'est une plaie de lèpre. Mais si la tache est restée à la même place et ne s'est pas étendue, c'est une cicatrice de l'ulcère, le sacrificateur le déclarera pur. Lorsqu'un homme aura eu sur la peau de son corps une brûlure par le feu, et qu'il se manifestera sur la trace de la brûlure une tache blanche ou d'un blanc rougeâtre, le sacrificateur l'examinera. Si le poil est devenu blanc dans la tache et qu'elle paraisse plus profonde que la peau, c'est la lèpre qui a fait éruption dans la brûlure. Le sacrificateur déclarera cet homme impur. C'est une plaie de lèpre. Si le sacrificateur voit qu'il n'y a point de poil blanc dans la tache, qu'elle n'est pas plus enfoncée que la peau et qu'elle est devenue pâle, il enfermera cet homme pendant 7 jours. Le sacrificateur l'examinera le 7e jour. Si la tache s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur, c'est une plaie de lèpre. Mais si la tache est restée à la même place, ne s'est pas étendue sur la peau et est devenue pâle, c'est la tumeur de la brûlure. Le sacrificateur le déclarera pur, car c'est la cicatrice de la brûlure. Lorsqu'un homme ou une femme aura une plaie à la tête ou à la barbe, le sacrificateur examinera la plaie. Si elle paraît plus profonde que la peau, et qu'il y ait du poil jaunâtre et mince, le sacrificateur déclarera cet homme impur. C'est la teigne, c'est la lèpre de la tête ou de la barbe. Si le sacrificateur voit que la plaie de la teigne ne paraît plus profonde que la peau, et qu'il n'y a point de poil noir, il enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie de la teigne. Le sacrificateur examinera la plaie le 7e jour, si la teigne ne s'est pas étendue, s'il n'y a point de poil jaunâtre, et si elle ne paraît pas plus profonde que la peau, celui qui a la teigne se rasera, mais il ne rasera point la place où est la teigne. Et le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant 7 jours. Le sacrificateur examinera la teigne le 7e jour, si la teigne ne s'est pas étendue sur la peau, et si elle ne paraît pas plus profonde que la peau, le sacrificateur le déclarera pur. Il lavera ses vêtements et il sera pur. Mais si la teigne s'est étendue sur la peau, après qu'il a été déclaré pur, le sacrificateur l'examinera. Et si la teigne s'est étendue sur la peau, le sacrificateur n'aura pas à rechercher s'il y a du poil jaunâtre. Il est impur. Si la teigne lui paraît ne pas avoir fait de progrès et qu'il y ait cru du poil noir, la teigne est guérie. Il est pur et le sacrificateur le déclarera pur. Lorsqu'un homme ou une femme aura sur la peau de son corps des taches blanches, le sacrificateur l'examinera. S'il y a sur la peau de son corps des taches d'un blanc pâle, ce ne sont que des taches qui ont fait éruption sur la peau. Il est pur. Lorsqu'un homme aura la tête dépouillée de cheveux, c'est un chauve, il est pur. S'il a la tête dépouillée de cheveux de côté de la face, c'est un chauve par devant, il est pur. Mais s'il y a dans la partie chauve, de devant ou de derrière, une plaie d'un blanc rougeâtre, c'est la lèpre qui a fait éruption dans la partie chauve, de derrière ou de devant. Le sacrificateur l'examinera. S'il y a une tumeur de plaie d'un blanc rougeâtre dans la partie chauve, de derrière ou de devant, semblable à la lèpre, sur la peau du corps, c'est un homme lépreux, il est impur. Le sacrificateur le déclarera impur. C'est à la tête qu'est sa plaie. Le lépreux, atteint de la plaie, portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera « impur, impur ». Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur, il est impur. Il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Lorsqu'il y aura sur un vêtement une plaie de lèpre, sur un vêtement de laine ou sur un vêtement de lin, à la chaîne ou à la trame de lin ou de la laine, sur une peau ou sur quelque ouvrage de peau, et que la plaie sera verdâtre ou rougeâtre, sur le vêtement ou sur la peau, à la chaîne ou à la trame, ou sur un objet quelconque de peau, c'est une plaie de lèpre, elle sera montrée au sacrificateur. Le sacrificateur examinera la plaie, et il enfermera pendant 7 jours ce qui en est attaqué. Il examinera la plaie le 7e jour, si la plaie s'est étendue sur le vêtement, à la chaîne ou à la trame, sur la peau ou sur l'ouvrage quelconque fait de peau, c'est une plaie de lèpre invétérée, l'objet est impur. Il brûlera le vêtement, la chaîne ou la trame de laine ou de lin, l'objet quelconque de peau sur lequel se trouve la plaie, car c'est une lèpre invétérée. Il sera brûlé au feu. Mais si le sacrificateur voit que la plaie ne s'est pas étendue sur le vêtement, sur la chaîne ou sur la trame, sur l'objet quelconque de peau, il ordonnera qu'on lave ce qui est attaqué de la plaie, et il l'enfermera une seconde fois pendant 7 jours. Le sacrificateur examinera la plaie, après qu'elle aura été lavée. Si la plaie n'a pas changé d'aspect et ne s'est pas étendue, l'objet est impur. Il sera brûlé au feu. C'est une partie de l'endroit ou de l'envers qui a été rongée. Si le sacrificateur voit que la plaie est devenue pâle, après avoir été lavée, il l'arrachera du vêtement ou de la peau, de la chaîne ou de la trame. Si elle paraît encore sur le vêtement, à la chaîne ou à la trame, ou sur l'objet quelconque de peau, c'est une éruption de lèpre. Ce qui est attaqué de la plaie sera brûlé au feu. Le vêtement, la chaîne ou la trame, l'objet quelconque de peau, qui a été lavé, et d'où la plaie a disparu, sera lavé une seconde fois, et il sera pur. Telle est la loi sur la plaie, de la lèpre, lorsqu'elle attaque les vêtements de laine ou de lin, la chaîne ou la trame, ou un objet quelconque de peau, et d'après laquelle ils seront déclarés purs ou impurs. Version Louis II. Ce chapitre traite des façons de reconnaître et d'agir dans les cas des maladies, de la peau et des vêtements infectés. La nomenclature est simple pour des gens simples. Les restrictions s'appliquent et dans la terminologie moderne, la Torah serait plus longue, mais les principes seraient les mêmes. Nous lisons dans Lévitique chapitre 14, versets 1 à 57. L'Éternel parla à Moïse et dit « Voici quelle sera la loi sur le lépreux, pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie et de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne, pour celui qui doit être purifié, deux oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera sept fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre, puis il le déclarera pur, et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tout son poil, et se baignera dans l'eau, et il sera pur. Ensuite, il pourra entrer dans le camp, mais il restera sept jours hors de sa tente. Le septième jour, il rasera tout son poil, sa tête, sa barbe, ses sourcils, il rasera tout son poil. Il lavera ses vêtements et baignera son corps dans l'eau, et il sera pur. Le huitième jour, il prendra deux agneaux sans défaut et une brebis d'un an sans défaut, trois dixièmes d'un épha de fleurs de farine en offrande pétrie à l'huile et un log d'huile. Le sacrificateur qui fait la purification présentera l'homme qui se purifie et toutes ces choses devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur prendra l'un des agneaux et il l'offrira en sacrifice de culpabilité avec le log d'huile. Il les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. Il égorgera l'agneau dans le lieu où l'on égorge les victimes expiatoires et les holocaustes, dans le lieu saint, car dans le sacrifice de culpabilité, comme dans le sacrifice d'expiation, la victime est pour le sacrificateur, c'est une chose très sainte. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité, il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Le sacrificateur prendra du log d'huile et il en versera dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans le creux de sa main gauche, et il fera avec le doigt sept fois l'aspersion de l'huile devant l'Éternel. Le sacrificateur mettra de l'huile qui lui reste dans la main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, par-dessus le sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur mettra ce qui lui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel. Puis le sacrificateur offrira le sacrifice d'expiation, et il fera l'expiation pour celui qui se purifie de sa souillure. Ensuite, il égorgera l'holocauste. Le sacrificateur offrira sur l'autel l'holocauste et l'offrande, et il fera pour cet homme l'expiation, et il sera pur. S'il est pauvre, et que ses ressources soient insuffisantes, il prendra un seul agneau, qui sera offert en sacrifice de culpabilité, après avoir été agité de côté et d'autre, et avec lequel on fera pour lui l'expiation. Il prendra un seul dixième de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande et un log d'huile. Il prendra aussi deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, selon ses ressources, l'un pour le sacrifice d'expiation, l'autre pour l'holocauste. Le huitième jour, il apportera pour sa purification toutes ces choses au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. Le sacrificateur prendra l'agneau pour le sacrifice de culpabilité et le log d'huile, et il les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. Il égorgera l'agneau du sacrifice de culpabilité, le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité, et il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Le sacrificateur versera de l'huile dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur fera avec le doigt de sa main droite sept fois l'aspersion de l'huile qui est dans sa main gauche devant l'Éternel. Le sacrificateur mettra de l'huile qui est dans sa main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, à la place où il a mis du sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur mettra ce qui lui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie, afin de faire pour lui l'expiation devant l'Éternel. puis il offrira l'une des tourterelles ou l'un des jeunes pigeons qu'il a pu se procurer. L'un en sacrifice d'expiation, l'autre en holocauste avec l'offrande. Et le sacrificateur fera pour celui qui se purifie l'expiation devant l'Éternel. Telle est la loi pour la purification de celui qui a une plaie de lèpre et dont les ressources sont insuffisantes. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan, dont je vous donne la possession, si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous posséderez, celui à qui appartiendra la maison ira le déclarer au sacrificateur et dira, « J'aperçois comme une plaie dans ma maison. » Le sacrificateur, avant d'y entrer pour examiner la plaie, ordonnera qu'on vide la maison, afin que tout ce qui y est ne devienne pas impur. Après cela, le sacrificateur entrera pour examiner la maison. Le sacrificateur examinera la plaie. S'il voit qu'elle offre sur les murs de la maison des cavités verdâtres ou rougeâtres, paraissant plus enfoncées que le mur, il sortira de la maison, et quand il sera à la porte, il fera fermer la maison pour 7 jours. Le sacrificateur y retournera le 7e jour. S'il voit que la plaie s'est étendue sur les murs de la maison, il ordonnera qu'on ôte les pierres attaquées de la plaie et qu'on les jette hors de la ville, dans un lieu impur. Il fera racler tout l'intérieur de la maison et l'on jettera hors de la ville, dans un lieu impur, la poussière qu'on aura raclée. On prendra d'autres pierres que l'on mettra à la place des premières et l'on prendra d'autres mortiers pour recrépir la maison. Si la plaie revient et fait éruption dans la maison, après qu'on a ôté les pierres, raclé et recrépi la maison, le sacrificateur y retournera. S'il voit que la plaie s'est étendue dans la maison, c'est une lèpre invétérée dans la maison, elle est impure. On abattra la maison, les pierres, le bois et tout le mortier de la maison, et l'on portera ces choses hors de la ville dans un lieu impur. Celui qui sera entré dans la maison pendant tout le temps qu'elle était fermée sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura couché dans la maison lavera ses vêtements. Celui qui aura mangé dans la maison lavera aussi ses vêtements. Si le sacrificateur qui est retourné dans la maison voit que la plaie ne s'est pas étendue, après que la maison a été recrépie, il déclarera la maison pure, car la plaie est guérie. Il prendra, pour purifier la maison, 2 oiseaux, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Il égorgera l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra le bois de cèdre, l'hysope, le cramoisi et l'oiseau vivant. Il les trempera dans le sang de l'oiseau égorgé et dans l'eau vive, et il en fera 7 fois l'aspersion sur la maison. Il purifiera la maison avec le sang de l'oiseau, avec de l'eau vive, avec l'oiseau vivant, avec le bois de cèdre, l'hysope et le cramoisi. Il lâchera l'oiseau vivant hors de la ville, dans les champs. C'est ainsi qu'il fera pour la maison l'expiation, et elle sera pure. Telle est la loi pour toute plaie de lèpre, et pour la teigne, pour la lèpre des vêtements et des maisons, pour les tumeurs, les dartres et les taches. Elle enseigne quand une chose est impure et quand elle est pure. Telle est la loi sur la lèpre.
Version 8 secondes.
Lévitique chapitre 14 traite de la lèpre et des sacrifices après la guérison. Il traite aussi des vêtements et du logement infecté. L'aspect entier des régions infectées est couvert sous ces lois. Si ces lois étaient observées aujourd'hui, les maladies infectieuses et les infections retrouvées dans les hôpitaux seraient réduites ou éliminées. Maintenant, nous comprenons davantage, entre parenthèses sur une base scientifique, les causes de ces infections qu'avant, mais nos comportements de se mettre en quarantaine et d'isolement ne sont pas aussi rigides. Nous ne fermons pas de section à cause des coûts et de la disponibilité des lits, ce qui permet aux infections de se propager. Les gens meurent dans les hôpitaux parce que la loi biblique est violée, même aujourd'hui. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 24, versets 8 à 9. « Prends garde à la plaie de la lèpre, afin de bien observer et de faire tout ce que vous enseigneront les sacrificateurs, les lévites. Vous aurez soin d'agir d'après les ordres que je leur ai donnés. Souviens-toi de ce que l'Éternel ton Dieu fit à Marie pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. » Version 8 secondes. La lèpre est aussi une punition pour la rébellion. Aujourd'hui, les aspects de l'intervention divine ne sont pas souvent pris en considération. Nous lisons dans Lévitique chapitre 15, versets 1 à 33. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, parle aux enfants d'Israël et dites-leur, tout homme qui a une gonorrhée est par là même impur. C'est à cause de sa gonorrhée qu'il est impur. Que sa chair laisse couler son flux, ou qu'elle le retienne, il est impur. Tout lit sur lequel il couchera sera impur, et tout objet sur lequel il s'assiera sera impur. Celui qui touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui s'assiera sur l'objet sur lequel il s'est assis lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui touchera sa chair lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il crache sur un homme pur, cet homme lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Toute monture sur laquelle il s'assiera sera impur. Celui qui touchera une chose quelconque qui a été sous lui sera impur jusqu'au soir. Et celui qui la portera lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui sera touché par lui et qui ne sera pas lavé les mains dans l'eau, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Tout vase de terre qui sera touché par lui sera brisé, et tout vase de bois sera lavé dans l'eau. Lorsqu'il sera purifié de son flux, il comptera 7 jours pour sa purification. Il lavera ses vêtements, il lavera sa chair avec de l'eau vive, et il sera pur. Le 8e jour, il prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, il ira devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation, et il les donnera au sacrificateur. Le sacrificateur les offrira, l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel à cause de son flux. L'homme qui aura une pollution lavera tout son corps dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Tout vêtement et toute peau qui en seront atteints seront lavés dans l'eau et seront impurs jusqu'au soir. Si une femme a couché avec un tel homme, ils se laveront l'un et l'autre et seront impurs jusqu'au soir. La femme qui aura un flux de sang en sa chair, restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau, et sera impur jusqu'au soir. Quiconque touchera un objet sur lequel elle s'est assise lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau, et sera impur jusqu'au soir. S'il y a quelque chose sur le lit ou sur l'objet sur lequel elle s'est assise, celui qui la touchera sera impur jusqu'au soir. Si un homme couche avec elle, et que l'impureté de cette femme vienne sur lui, il sera impur pendant 7 jours, et tout lit sur lequel il couchera sera impur. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours, hors de ses époques régulières, ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme lors de son flux menstruel. Quiconque les touchera sera souillé. Il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Lorsqu'elle sera purifiée de son flux, elle comptera 7 jours, après lesquels elle sera pure. Le 8e jour, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, et elle les apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur offrira l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste. Et le sacrificateur fera pour elle l'expiation devant l'Éternel à cause du flux qui la rendait impure. Vous éloignerez les enfants d'Israël de leurs impuretés, de peur qu'ils ne meurent à cause de leurs impuretés, s'ils souillent mon tabernacle qui est au milieu d'eux. Telle est la loi pour celui qui a une gonorrhée ou qui est souillé par une pollution, pour celle qui a son flux menstruel, pour l'homme ou la femme qui a un flux, et pour l'homme qui couche avec une femme impure.
Version Louis II.
Ce chapitre traite premièrement des maladies qui causent des écoulements.
Par exemple, les maladies sexuellement transmises,
le sida, les rhumes et autres maladies contagieuses. Ensuite, cela traite des articles infectés, des vêtements, des ustensiles et des relations sexuelles et de la menstruation. Les lois de la propreté et de la quarantaine sont des lois qui sont là pour l'endiguement de l'infection. Nous comprenons maintenant les causes des maladies d'une façon beaucoup plus définie, mais les lois de la quarantaine sont toujours valides. Nous lisons dans Nombre 5, versets 1 à 4. L'Éternel parla à Moïse et dit, ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous les lépreux, et quiconque a une gonorrhée ou est souillé par un mort, hommes ou femmes, vous les renverrez hors du camp, afin qu'ils ne souillent pas le camp au milieu duquel j'ai ma demeure. Les enfants d'Israël le firent ainsi, et ils les renvoyèrent hors du camp, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse, ainsi firent les enfants d'Israël. Donc la quarantaine des maladies infectieuses est obligatoire, voir nombre 9, versets 6 à 11. La deuxième Pâque est réservée pour ceux qui sont incapables de participer à la première, pour motif de voyage ou pour un autre problème de quarantaine. Ce n'est pas une question de choix. La relation du sacrifice est de nous tourner vers Dieu en tant que la source de la vie et de la guérison. La guérison est une science, et les guérisseurs qui travaillent au sein de la nation devraient travailler à l'intérieur des lois de Dieu. Ils doivent opérer avec diligence, comme ils agissent en tant que des instruments de Dieu à l'intérieur de ces lois. Nous lisons dans Deutéronome 23, versets 1 à 8, « Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa dixième génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. L'ammonite et le moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la dixième génération et à perpétuité, parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau, sur le chemin, lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor, en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam, et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être, tant que tu vivras à perpétuité. Tu n'auras point en abomination l'Édomite, car il est ton frère. Tu n'auras point en abomination l'Égyptien, car tu as été étranger dans son pays. Les fils qui leur naîtront à la troisième génération entreront dans l'assemblée de l'Éternel. » Version Louis II. Dans cette section de la loi, nous voyons que la protection de la nation est par la protection de la famille au sein du mariage. Ces catégories de gens sont interdites d'entrer dans la congrégation du Seigneur comme un exemple pour Israël. Ces gens meurent dans leur péché conformément à la loi. C'était aussi la coutume des païens d'exiger leurs prêtres d'être célibataires ou d'en faire des eunuques. La loi a été donnée ici pour interdire cette pratique. Les païens et les autres, connaissant cette loi, castraient parfois les élus en tant qu'eunuques pour aller à l'encontre de ces aspects de la loi et pour les rendre techniquement inaptes à entrer dans une synagogue et de là dans la congrégation. Le Nouveau Testament confirme cette pratique et les décisions ultérieures ont permis à de tels hommes de devenir évêques ou anciens. Le Messie est mort pour les péchés du monde. Le salut est maintenant celui des gentils. Et les péchés des pères ne sont plus attribués contre les fils. Ceci est la nouvelle alliance. La nature de la loi est écrite dans leur cœur, et chaque homme est responsable pour son propre péché. C'est la signification du changement dans la nature de l'alliance. Comparez Jérémie 31, versets 29 à 34. La structure entière de la nouvelle alliance sous le Messie devait s'occuper du péché. Comparez Matthieu 26, verset 28, Hébreux 8, verset 8 à 12, Hébreux 10, verset 16 à 17. Les commentaires rabbiniques échouent de traiter de la nature du changement correctement. Comparez le commentaire sur le verset 30 de la Sainte-Sinon. Israël restera effectivement fidèle à Dieu, mais le port du péché du Père au Fils est éliminé par la nouvelle alliance sous le Messie. Et c'est le message qui élimine la structure entière de la conséquence des péchés originels des pères de l'Ancien Testament. Le message du soi-disant christianisme moderne a exactement le message opposé de celui destiné sous le Messie. La conséquence de l'impureté parmi les nations durant la guerre est aussi couverte dans ce texte. La nation d'Israël ne doit pas faire ce que les gentils font, ni ne doit-elle se polluer parmi les gentils. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 23, versets 9 à 14. « Lorsque tu camperas contre tes ennemis, garde-toi de toute chose mauvaise. S'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur, par suite d'un accident nocturne, il sortira du camp et n'entrera point dans le camp. Sur le soir, il se lavera dans l'eau, et après le coucher du soleil, il pourra rentrer au camp. Tu auras un lieu hors du camp, et c'est là dehors que tu iras. Tu auras parmi ton bagage un assommant, dont tu te serviras pour faire un creux, et recouvrir tes excréments, quand tu voudras aller dehors. Car l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp, pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Version Louis II. Le Seigneur, notre Dieu, marche parmi nous et nous devons être saints en temps de paix ou en temps de guerre. Dieu habite parmi nous et nous sommes le temple de Dieu. Les lois de l'alimentation. Les lois de l'alimentation sont pour prolonger la vie et pour protéger la planète. Elles assurent la chaîne alimentaire et minimisent les maladies. La base scientifique des lois de l'alimentation est détaillée dans l'étude « Les lois de l'alimentation », étude numéro 15. Les aberrations concernant les lois de l'alimentation, les doctrines ascétiques du végétarisme et les aberrations qui leur sont connectées sont traitées dans les études « Le végétarisme et la Bible », étude numéro 183, « Le vin dans la Bible », étude numéro 188, et l'équilibre, étude numéro 209. Le végétarisme et le célibat et l'abstinence du mariage sont déclarés pour être des doctrines de démons des derniers jours. Voir 1 Timothée 4, verset 3, Actes 15, verset 20, Matthieu 3, verset 4. La prévention des maladies par l'observance des lois de l'alimentation et d'un abattage adéquat et le refus de manger des animaux endommagés par les bêtes sauvages sont enchâssés dans les ordonnances. Exemple, Exode 22, verset 31. Aussi, le premier des premiers fruits est dédié à la maison de Dieu. Voir Exode 34, verset 26. Le Seigneur a conduit Israël parce qu'il n'y avait pas de Dieu étranger parmi eux. Ils ont mangé du produit de la terre, même pendant tous les jours de Salomon, jusqu'à ce qu'ils pêchent et que l'iniquité soit placée sur la nation. Voir Deutéronome 32, verset 14, Proverbe 27, verset 27, 1 Roi 4, verset 22 à 23. Les lois de l'alimentation sont écrites dans Lévitique chapitre 11. Nous lisons dans Lévitique chapitre 11, versets 1 à 47. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit « Parlez aux enfants d'Israël et dites « Voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue. Seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau, qui rumine mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le daman, qui rumine mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le lièvre, qui rumine mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le porc, qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous ne toucherez pas leur corps mort. Vous les regarderez comme impurs. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles, et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles. Parmi tous ceux qui se meut dans les eaux, et tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Vous les aurez en abomination. Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous aurez en abomination leur corps mort. Vous aurez en abomination tous ceux qui, dans les eaux, n'ont pas des nageoires et des écailles. Voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination, et dont on ne mangera pas. L'aigle, l'orfraie et l'aigle de mer. Le milan, l'autour et ce qui est de son espèce. Le corbeau et toutes ses espèces. L'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce. Le chat-huant, le plongeon et la chouette, le cygne, ça c'est version du second, hein. Le pélican et le cormoran, la cigogne, le héron et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Vous aurez en abomination tout reptile qui vole et qui marche sur quatre pieds. Mais parmi tous les reptiles qui volent et qui marchent sur quatre pieds, vous mangerez ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds pour sauter sur la terre. Voici ceux que vous mangerez. La sauterelle, le solam, le harbol, le hargab, selon leurs espèces. Vous aurez en abomination tous les autres reptiles qui volent et qui ont quatre pieds. Ils vous rendront impurs. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir. Et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous regarderez comme impur tout animal qui a la corne fendue, mais qui n'a pas de pied fourchu et qui ne rumine pas. Quiconque le touchera sera impur. Vous regarderez comme impur tous ceux des animaux à quatre pieds qui marchent sur leurs pattes. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir. Et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous les regarderez comme impurs. Voici, parmi les animaux qui rampent sur la terre, ceux que vous regarderez comme impurs, la taupe, la souris et le lézard, selon leur espèce, le hérisson, la grenouille, la tortue, le limaçon et le caméléon. Vous les regarderez comme impurs parmi tous les reptiles. Quiconque les touchera mort sera impur jusqu'au soir. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé, ustensiles de bois, vêtements, peaux, sacs, tout objet dont on fait usage. Il sera mis dans l'eau et restera souillé jusqu'au soir, après quoi il sera pur. Tout ce qui sera trouvé dans un vase de terre, où il en tombera quelque chose, sera souillé, et vous briserez le vase. Tout aliment qui sert à la nourriture et sur lequel il sera tombé de cette eau sera souillé, et toute boisson dont on fait usage, quel que soit le vase qui la contienne, sera souillé. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé, le four et le foyer seront détruits, ils seront souillés, et vous les regarderez comme souillés. Il n'y aura que les sources et les citernes, formant des amas d'eau, qui resteront purs, mais celui qui y touchera de leur corps mort sera impur. S'il tombe quelque chose de leur corps mort sur une semence qui doit être semée, elle restera pure. Mais si l'on a mis de l'eau sur la semence, et qu'il y tombe quelque chose de leur corps mort, vous la regarderez comme souillée. S'il meurt un des animaux qui vous servent de nourriture, celui qui touchera son corps mort sera impur jusqu'au soir. Celui qui mangera de son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Et celui qui portera son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous aurez en abomination tout reptile qui rampe sur la terre. On n'en mangera point. Vous ne mangerez point parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre, de tous ceux qui se traînent sur le ventre, ni de tous ceux qui marchent sur quatre pieds ou sur un grand nombre de pieds, car vous les aurez en abomination. Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent. Ne vous rendez point impurs par eux. Ne vous souillez point par eux. Car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez, et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu, et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Telle est la loi touchant les animaux, les oiseaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux, et tous les êtres qui rampent sur la terre, afin que vous distinguiez ce qui est impur et ce qui est pur, l'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. Version 8 second. Il devrait être noté que la version 8 second utilise le mot « signe » au verset 18. Ce mot n'est pas en fait « signe » et ne concerne pas la famille des oies et des canards. Le mot « tishemes » fait référence à une chauve-souris, voire le commentaire de Rashi et de Shkishkuni. Ou un hibou, voir le commentaire de Rabag, comparé Stan Shkumash. Ou un hibou à cornes, comparé Sansino. Ou Tashemesh, dictionnaire hébreu de Strong 85-80, comme une poule d'eau. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 14, versets 1 à 21. Vous êtes les enfants de l'Éternel votre Dieu. Vous ne vous ferez point d'incision, et vous ne vous ferez point de place chauve entre les yeux pour un mort. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Et l'Éternel ton Dieu t'a choisi, pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Tu ne mangeras aucune chose abominable. Voici les animaux que vous mangerez, le bœuf, la brebis et la chèvre, le cerf, la gazelle et le daim, le bouquetin, le chevreuil, la chèvre sauvage et la girafe. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement, ou qui ont la corne fendue et le pied fourchu seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau, le lièvre, le daman, qui ruminent, mais qui n'ont pas la corne fendue. Vous les regarderez comme impurs. Vous ne mangerez pas le porc, qui a la corne fendue mais qui ne rumine pas,
vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous ne toucherez pas leur corps mort. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles, mais vous ne mangerez d'aucun de ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles. Vous les regarderez comme impurs. Vous mangerez tout oiseau pur, mais voici ceux dont vous ne mangerez pas. L'aigle, l'orfraie et l'aigle de mer, le milan, l'autour, le vautour, le skier de son espèce, le corbeau et toutes ses espèces, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier, le skier de son espèce, le chat-huant, la chouette et le cygne, le pélican, le cormoran et le plongeant, la cigogne, le héron, le skier de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Vous regarderez comme impur tout reptile qui vole, on n'en mangera point. Vous mangerez tout oiseau pur, vous ne mangerez d'aucune bête morte, tu la donneras à l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'il la mange, ou tu la vendras à un étranger. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Version 8 secondes. Ainsi de même, il doit y avoir pureté dans la race, il ne doit pas y avoir de mules ou d'animaux de ce genre, ni de vêtements d'un mélange de lin et laine. Voir Lévitique 19, verset 19. Excepté ceux du souverain sacrificateur. Nous lisons dans Lévitique 20, verset 25. Vous observerez la distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas rendre vos personnes abominables par des animaux, par des oiseaux, par tous les reptiles de la terre, que je vous ai appris à distinguer comme impurs. Version 8. Ces distinctions entre purs et impurs sont là pour préserver le peuple. Lévitique 22, verset 1 à 33 traite de l'utilisation ou de la consommation des choses saintes, elles ne devaient pas être profanées. La législation était ici pour protéger le sacerdoce et pour pointer vers les élus. Si la législation n'était pas là pour protéger les types d'animaux offerts, alors Lévi aurait mangé les déchets du pays et la table du Seigneur serait devenue polluée. Le sacrifice servait deux buts de cette façon. Les offrandes étaient saintes pour le Seigneur et seulement le meilleur était offert. Aussi, les offrandes pour le péché sont devenues la punition qu'elles devaient être. Et elles le seront de nouveau dans le système millénaire. David a mangé les pains de proposition qu'il ne pouvait pas légalement manger pour indiquer le Messie et le nouveau sacerdoce sous la lignée et la maison de David. Le test dans Nombre 19 traite du sacrifice, de la génisse rousse et le traitement des morts. Nous lisons dans Nombre, chapitre 19, versets 1 à 22. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit « Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite en disant « Parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'ait point porté le joug. Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar, qui la fera sortir du camp et on l'égorgera devant lui. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt et il en fera sept fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. » On brûlera la vache sous ses yeux, on brûlera sa peau, sa chair et son sang, avec ses excréments. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi, et il les jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache. Le sacrificateur lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau, puis il rentrera dans le camp et sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau et lavera son corps dans l'eau. Et il sera impur jusqu'au soir. Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Celui qui aura recueilli la cendre de la vache lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Ce sera une loi perpétuelle pour les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux. Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur pendant sept jours. Il se purifiera avec cette eau le troisième jour et le septième jour, et il sera pur. Mais s'il ne se purifie pas le troisième jour et le septième jour, il ne sera pas pur. Celui qui touchera un mort, le corps d'un homme qui sera mort et qui ne se purifiera pas, suit le tabernacle de l'Éternel, celui-là sera retranché d'Israël. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur, et son impureté est encore sur lui.
Voici la loi. Lorsqu'un homme mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours. Tout vase découvert sur lequel il n'y aura point de couvercle attaché sera impur. Quiconque touchera dans les champs un homme tué par l'épée, ou un mort, ou des ossements humains, ou un sépulcre, sera impur pendant 7 jours. On prendra, pour celui qui est impur, de la cendre de la victime expiatoire qui a été brûlée, et on mettra dessus de l'eau vive dans un vase. Un homme pur prendra de l'hysope et la trempera dans l'eau, puis il en fera l'aspersion sur la tente, sur tous les ustensiles, sur les personnes qui sont là, sur celui qui a touché les ossements, ou un homme tué, ou un mort, ou un sépulcre. Celui qui est pur fera l'aspersion sur celui qui est impur, le 3e jour et le 7e jour, et il le purifiera le 7e jour. Il lavera ses vêtements, et se lavera dans l'eau, et le soir il sera pur. Un homme qui sera impur, et qui ne se purifiera pas, sera retranché du milieu de l'assemblée, car il a souillé le sanctuaire de l'Éternel. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur. Ce sera pour eux une loi perpétuelle, celui qui fera l'aspersion de l'eau de purification lavera ses vêtements, et celui qui touchera l'eau de purification sera impur jusqu'au soir. Tout ce que touchera celui qui est impur sera souillé, et la personne qui le touchera sera impure jusqu'au soir. Le système de purification servait 2 buts. Il en chassait les règles de propreté dans les situations qui pourraient entraîner la contamination dans la loi, et aussi représentait le système de sanctification dans le temple des élus. Parce que la fausse Église n'a pas compris la législation de l'Ancien Testament dans ses aspects, des millions sont morts prématurément à cause de la violation de ces lois par ignorance et la maladie. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 22, versets 9 à 11. « Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras semé, ni du produit de la vigne. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. » Version 8 secondes. Ces lois concernant la pureté des semences et des sortes sont traitées dans l'étude de la loi et le 5e commandement, étude numéro 258. L'hybridation excessive des plantes aurait créé la confusion. La manipulation délibérée de ces attributs et des plantes fait la même chose aujourd'hui. L'interdiction de manger du sang. Le sang est la vie, et la consommation du sang est un risque sérieux pour la santé. Nous lisons dans Lévitique chapitre 17, versets 10 à 16. « Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. » C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, « Personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit, aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Toute personne indigène ou étrangère qui mangera d'une bête morte ou déchirée lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impure jusqu'au soir, puis elle sera pure. Si elle ne lave pas ses vêtements et ne lave pas son corps, elle portera la peine de sa faute. » Version 8 secondes. L'échec de respecter les lois de Dieu entraîne une pénalité. Les aspects composés de ces lois indiquent une forme d'adoration qui existait dans l'ancien monde païen. Nous savons maintenant que dans le système de Trinité parmi les druides, les celtes et les ariens, généralement les sacrifices humains avaient lieu et les bosquets étaient couverts ou décorés avec des intestins humains et du sang. Comparez l'étude des origines de Noël et de Easter Pack, étude numéro 235. Le système du zodiaque, en tant que religion de l'observation des temps, n'était pas conformément au calendrier de la Bible. Le système de divination était différent de celui de l'Urim et du Thummim, et était une forme de magie et de sorcellerie. La rébellion. Dieu désire l'obéissance, pas le sacrifice. La rébellion est comme le péché de sorcellerie. Voir 1 Samuel 15, versets 22 à 23. Parce que cela établit une volonté en opposition
à la volonté de Dieu, tel que vu dans Nombre 60, verset 1 à 50. Ce texte concerne la rébellion de Corée, qui est traitée dans l'étude de la loi et le premier commandement, étude numéro 253. Dieu s'est chargé de cette rébellion de deux façons. La première étape n'a pas été tenue en compte, et alors la populace a été en danger de destruction. À partir de ce temps-là, le sacerdoce entier était distingué jusqu'à la venue du Messie et du sacerdoce de Melchisédek. Alors les élus seraient les sacrificateurs pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Et Dieu a dit qu'ils seraient des dieux, des fils du Très-Haut, eux tous, et les Écritures ne peuvent pas être anéanties. Voir Psaume 82, versets 6 à 7, Jean chapitre 10, verset 35. Dans Nombre chapitre 17, Aaron pointait vers le sacerdoce des 12 tribus sous le Messie. Et Lévi prend ensuite sa place dans un sacerdoce élargi, au-dessus des gentils, et le monde entier se joindra au culte d'Israël. Voir Apocalypse 7, versets 4 à 8. Le système de loi-ordre de Dieu est établi dans la nation sous un dirigeant, en tant que le représentant direct de Dieu. Le dirigeant a aussi des représentants qui ont en charge la loi et d'établir la punition. L'établissement du système des crimes et des punitions. Chaque commandement est accompagné d'une sanction de la peine de mort. Cette pénalité n'est pas une conséquence sans discernement de jugement. Dieu désire la miséricorde et la justice. Christ a montré comment les pénalités devaient être administrées. Voir Jean 8, verset 7. Les pénalités ne devaient pas être administrées par une foule violente, pas plus que la peine de mort devait être appliquée sans discernement, comme nous le voyons dans les commentaires du Messie concernant la femme adultère. Voir Jean 8, versets 1 à 11. Dans cet exemple, le Messie a révélé l'interprétation de la loi. Ce n'est seulement dans les cas d'infraction répétée d'une ordonnance que la peine de mort est appliquée, ou quand le sixième commandement est enfreint dans des circonstances bien spécifiques. Car la loi permet à un individu d'ôter la vie dans certaines circonstances. L'avortement. L'avortement est une infraction du sixième commandement, excepté dans un cas. Ce cas est lorsqu'une autre loi est violée. Lorsque l'enfant menace la vie du parent, l'enfant est alors mis à mort. C'est un reflet du cinquième commandement, et le sixième suit le cinquième et l'interprète. Ainsi, l'enfant ne peut pas être permis de tuer sa mère. Ceci devait être logiquement en accord avec les lois de Dieu. Les cinq premiers commandements ont rapport aux responsabilités de l'individu envers Dieu et la famille dans la société, comme créateur et parent. Les cinq derniers commandements ont rapport aux interactions avec cette société. Aucun enfant ne peut causer la mort de ou des dommages à un parent avec impunité. Nous lisons dans Exode chapitre 21, verset 15. « Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. » Version 8 secondes. L'avortement est ainsi permis à l'intérieur de la loi de Dieu pour sauver la vie de la mère. Les dommages dans la fausse couche. La punition pour une fausse couche induite par violence est selon les réclamations en dommages, telles que déterminées par un tribunal du pays. Nous lisons dans Exode chapitre 21, versets 22 à 25. « Si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils payeront devant les juges. Mais s'il y a un accident qui donnera vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. » Version 8 secondes. Le refus de se présenter devant le tribunal et la création de tort par la suite doivent aussi être punis selon le crime. Donc les deux parties doivent être liées par les décisions de la cour. Et tout tort causé par une des parties pour se venger est puni conformément aux dommages infligés. Ceci est en accord avec la loi qui dit « Tu ne mépriseras pas l'Élohim ou le dirigeant du peuple. » Le meurtre. Le fait d'ôter la vie illégalement est un meurtre. La loi spécifie les cas et les circonstances quand une personne peut être mise à mort. Toute vie ôtée illégalement est un meurtre. Ainsi, le sixième commandement est correctement compris comme signifiant « tu ne tueras pas », dans le sens « tu ne commettras pas de meurtre ». Le fait d'ôter la vie n'est pas seulement sanctionné, c'est obligatoire sous la loi dans certains cas, comme montré ci-dessus. De plus, les types de crimes requièrent certains niveaux de l'application de la loi. L'infraction du sixième commandement requiert la peine de mort, tandis que seulement les infractions répétées et volontaires de certains des autres commandements entraînent la peine de mort. Mais à la fin, toutes les transgressions de la loi entraînent la peine de mort. Comparez Nombre 15, versets 32 à 36. La loi martiale. La nation est dénombrée pour la guerre sous la loi. Voir Nombre 26, verset 2. Le roi qui est placé sur Israël doit être choisi parmi ses frères. Il ne doit pas accumuler des chevaux pour lui-même, ni forcer ses frères à retourner en Égypte pour accumuler des chevaux pour lui. Il ne doit pas non plus accumuler de femmes pour lui-même ou s'écarter de la loi de Dieu. Voir Deutéronome 17, versets 14 à 20, Ecclésiaste 5, verset 9, Ésaïe 32, verset 17, comparer l'étude, la loi et le cinquième commandement, étude numéro 258. Le roi doit gouverner selon la loi de Dieu, même le Messie, et la loi proviendra de Sion. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 2, versets 2 à 5. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la maison de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des oyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tuera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. » Version 8 secondes. Toute vie est conditionnelle à l'obéissance aux lois de Dieu, comparé Deutéronome 7, versets 1 à 5. L'autorité de conduire les guerres. La décision de faire la guerre repose sur les chefs de la nation, et les serments de la nation sont pris en considération et liés. Dieu a causé un châtiment à cause de l'échec de faire la guerre d'une manière adéquate. Voir Nombre 21, versets 1 à 5. L'échec d'obéir et le manque de foi de la nation ont causé l'erreur du séraphin de cuivre appelé un serpent. Le séraphin a été élevé pour concentrer la foi d'Israël là où elle était manquante, mais sans l'utilisation d'une raison physique. Les élus n'en ont pas et n'ont pas besoin de cela. Souvent, le Seigneur force des décisions pour que l'ennemi soit livré entre les mains de la nation, même quand il ne veut pas faire la guerre. Il en sera ainsi également dans les derniers jours. Les nations seront emmenées à la vallée de la décision contre le Messie, et là, elles seront détruites. Nous lisons dans Nombre, chapitre 31, versets 1 à 54. L'Éternel parla à Moïse et dit « Venge les enfants d'Israël sur les Madianites. Tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. » Moïse parla au peuple et dit « Équipez d'entre vous des hommes pour l'armée, et qu'ils marchent contre Madian, afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. Vous enverrez à l'armée 1000 hommes par tribu de toutes les tribus d'Israël. On leva d'entre les milliers d'Israël 1000 hommes par tribu, soit 12 000 hommes équipés pour l'armée. Moïse envoya à l'armée ces 1000 hommes par tribu, et avec eux le fils du sacrificateur Éléazar, Phiné, qui portait les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Ils s'avancèrent contre Madian, selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, et ils tuèrent tous les mâles. Ils tuèrent les rois de Madian, avec tous les autres, Évi, Rékem, Tsur, Hur et Reba, 5 rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Les enfants d'Israël firent prisonnières les femmes des Madianites, avec leurs petits-enfants, et ils pillèrent tout leur bétail, tous leurs troupeaux et toutes leurs richesses. Ils incendièrent toutes les villes qu'ils habitaient et tous leurs enclos. Ils prirent toutes les dépouilles et tout le butin, personnes et bestiaux. Et ils amenèrent les captifs, le butin et les dépouilles à Moïse, au sacrificateur Éléazar et à l'assemblée des enfants d'Israël, campés dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Moïse, le sacrificateur Éléazar et tous les princes de l'assemblée sortirent au-devant d'eux, hors du camp. Et Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines qui revenaient de l'expédition. Il leur dit « Avez-vous laissé la vie à toutes les femmes ? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Maintenant, tuez tout mâle parmi les petits-enfants et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie pour vous, toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Et vous, campez pendant 7 jours hors du camp, tous ceux d'entre vous qui ont tué quelqu'un, et tous ceux qui ont touché à mort, se purifieront le 3e et le 7e jour, eux et vos prisonniers. Vous purifierez aussi tout vêtement, tout objet de peau, tout ouvrage de poils de chèvre et tout ustensile de bois. Le sacrificateur Éléazar dit aux soldats qui étaient allés à la guerre, « Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite à Moïse. L'or, l'argent, les reins, le fer, l'étain et le plomb, tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Mais c'est par l'eau de purification que sera purifié tout ce qui ne peut pas aller au feu, vous le ferez passer dans l'eau. Vous laverez vos vêtements le 7e jour et vous serez pur. Ensuite, vous pourrez entrer dans le camp. » L'Éternel dit à Moïse, « Fais avec le sacrificateur Éléazar et les chefs de maison de l'assemblée le compte du butin de ce qui a été pris, personnes et bestiaux. Partage le butin entre les combattants qui sont allés à l'armée et toute l'assemblée. Tu prélèveras sur la portion des soldats qui sont allés à l'armée un tribut pour l'Éternel, savoir 1 sur 500, tant des personnes que des bœufs, des ânes et des brebis. Vous le prendrez sur leur moitié, et tu le donneras au sacrificateur Éléazar comme une offrande à l'Éternel. Et sur la moitié qui revient aux enfants d'Israël, tu prendras 1 sur 50, tant des personnes que des bœufs, des ânes et des brebis, de tout animal. Et tu le donneras aux Lévites, qui ont la garde du tabernacle de l'Éternel. » Moïse et le sacrificateur Éléazar firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Le butin reste du pillage de ceux qui avaient fait partie de l'armée était de 675 000 brebis, 72 000 bœufs, 61 000 ânes et 32 000 personnes ou femmes qui n'avaient point connu la couche d'un homme. La moitié, formant la part de ceux qui étaient allés à l'armée, fut de 337 500 brebis, dont 675 pour le tribut à l'Éternel, 36 000 bœufs, dont 72 pour le tribut à l'Éternel, 30 500 ânes, dont 61 pour le tribut à l'Éternel, et 16 000 personnes, dont 32 pour le tribut à l'Éternel. Moïse donna au sacrificateur Éléazar le tribut réservé comme offrande à l'Éternel, selon ce que l'Éternel lui avait ordonné. La moitié qui revenait aux enfants d'Israël, séparée par Moïse de celle des hommes de l'armée et formant la part de l'assemblée, fut de 337 500 brebis, 36 000 bœufs, 30 500 ânes et 16 000 personnes. Sur cette moitié qui revenait aux enfants d'Israël, Moïse prit 1 sur 50, tant des personnes que des animaux, et il le donna aux Lévites, qui ont la garde du tabernacle de l'Éternel, selon ce que l'Éternel lui avait ordonné. Les commandants des milliers de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines s'approchèrent de Moïse et lui dirent, « Tes serviteurs ont fait le compte des soldats qui étaient sous nos ordres, et il ne manque pas un homme d'entre nous. Nous apportons comme offrande à l'Éternel chacun des objets d'or que nous avons trouvés, chaînettes, bracelets, anneaux, pendants d'oreilles et colliers, afin de faire pour nos personnes l'expiation devant l'Éternel. » Moïse et le sacrificateur Éléazar reçurent d'eux tous ces objets travaillés en or. Tout l'or que les chefs de milliers et les chefs de centaines présentèrent à l'Éternel en offrande par élévation pesait 16 750 sicles. Les hommes de l'armée gardèrent chacun le butin qu'ils avaient fait. Moïse et le sacrificateur Éléazar prirent l'or des chefs de milliers et des chefs de centaines et l'apportèrent à la tente d'assignation comme souvenir pour les enfants d'Israël devant l'Éternel. Version 8 secondes. Ce chapitre traite des guerres subséquentes et de la conduite appropriée concernant le butin de guerre et les tribus. Les gens qui sont autorisés à entrer dans la congrégation d'Israël sont les 32 000 femmes qui n'avaient pas connu d'hommes. Ce même exemple s'applique à Gédéon quand le même nombre est raffiné encore plus à 300 pour la bataille parmi les nations. Aucune pollution n'était permise à entrer dans la congrégation d'Israël. Pas de faux dieux, pas de maladies, mais seulement les vierges. Ces exemples pointés vers les nations qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau et sont les vierges spirituelles connaissant seulement un Dieu en tant que fiancées de Christ. service militaire et dénombrement des troupeaux. Aucun homme ne peut être forcé à faire son service militaire la première année de son mariage, ni forcé à se battre contre sa volonté. Comparé Deutéronome chapitre 20. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 24, verset 5. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée, et on ne lui imposera aucune charge. Il sera exempté par raison de famille pendant un an, et il régira la femme qu'il a prise. Version Louis II. Aucune personne ne peut aller à la guerre avant l'âge de 20 ans ou contre son gré. Nous lisons dans Nombre chapitre 1, verset 1 à 46. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année, après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit, « Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël selon leur famille, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms de tous les mâles. Depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes, vous en ferez le dénombrement selon leur division, toi et Aaron. Il y aura avec vous un homme par tribu, chef de la maison de ses pères. Voici les noms des hommes qui se tiendront avec vous, pour Ruben, Elitsur, fils de Shkeleur, pour Siméon, Shkelumiel, fils de Tsurishadai, pour Judas, Nakshon, fils d'Aminadab, pour Issachar, Neftanéel, fils de Tsuar, pour Zabulon, Eliab, fils de Hélon, pour les fils de Joseph, pour Ephraïm, Elishama, fils d'Amihud, pour Manassé, Gamliel, fils de Pedachur, pour Benjamin, Abidan, fils de Gideoni, pour Dan, Ayézer, fils d'Aminshadai, pour Azer, Pagiel, fils d'Okran, pour Gad, Eliasaph, fils de Deuel, pour Nephtali, Ahira, fils d'Éna. Tels sont ceux qui furent convoqués à l'assemblée, princes des tribus de leur père, chefs des milliers d'Israël. Moïse et Aaron prirent ces hommes qui avaient été désignés par leur nom, et ils convoquèrent toute l'assemblée le premier jour du second mois. On les enregistra selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Moïse en fit le dénombrement dans le désert de Sinaï, comme l'Éternel le lui avait ordonné. On enregistra les fils de Ruben, premier-né d'Israël, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms de tous les mâles, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Ruben, dont on fit le dénombrement, furent 46 500. On enregistra les fils de Siméon selon leur famille, selon les maisons de leur père. On en fit le dénombrement, en comptant par tête les noms de tous les mâles depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Siméon, dont on fit le dénombrement, furent 59 300. On enregistra les fils de Gad, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Gad, dont on fit le dénombrement, furent 45 650. On enregistra les fils de Juda, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Juda, dont on fit le dénombrement, furent 74 600. On enregistra les fils d'Issachar, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Issachar, dont on fit le dénombrement, furent 54 400. On enregistra les fils de Zabulon, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Zabulon, dont on fit le dénombrement, furent 57 400. On enregistra, d'entre les fils de Joseph, les fils d'Éphraïm, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Éphraïm, dont on fit le dénombrement, furent 4 500. On enregistra les fils de Manassé, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Manassé, dont on fit le dénombrement, furent 32 200. On enregistra les fils de Benjamin, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Benjamin, dont on fit le dénombrement, furent 35 400. On enregistra les fils de Dan, selon leur famille, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Dan, dont on fit le dénombrement, furent 62 700. On enregistra les fils d'Asser, selon leur famille, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Asser, dont on fit le dénombrement, furent 41 500. On enregistra les fils de Nephtali, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes, dont on fit le dénombrement, furent 53 400. Tels sont ceux dont le dénombrement fut fait par Moïse et Aaron, et par les 12 hommes, princes d'Israël. Il y avait un homme pour chacune des maisons de leur père. Tous ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement, selon les maisons de leur père depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes, tous ceux dont on fit le dénombrement furent 603 550. Version Louis II. Ce chapitre traite du dénombrement d'Israël, qui a eu lieu le premier jour du deuxième mois, dans la deuxième année après la sortie d'Égypte. Ceux qui sont dénombrés et qui ne veulent pas aller à la guerre comme partie de l'armée, et qui ne sont pas dans les catégories exemptées du service militaire énumérées plus haut, peuvent être utilisés pour faire les dures tâches dans les catégories des impôts levés par la couronne, comparé 1 roi 5 verset 13 et suivant. Tout Israël doit se présenter devant ses chefs lorsqu'il est appelé à servir. Il y a un ordre de marche et un ordre de bataille spécifique. Nous lisons dans Nombre chapitre 10 verset 1 à 36. L'Éternel parla à Moïse et dit « Fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand ton nom sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si dans le son que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat, pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront, on sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat. Et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu, « Je suis l'Éternel, votre Dieu ». Le 20e jour du second mois de la seconde année, la nuée s'éleva de dessus le tabernacle du témoignage, et les enfants d'Israël partirent du désert de Sinaï. Selon l'ordre fixé pour leur marche, la nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Ils firent ce premier départ sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. La bannière du camp des fils de Juda partit la première, avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Juda était commandé par Nachshon, fils d'Aminadab. Le corps d'armée de la tribu des fils d'Issachar par Nephtaniel, fils de Tsuar. Le corps d'armée de la tribu des fils de Zabulon par Eliab, fils de Hélon. Le tabernacle fut démonté, et les fils de Gershon et les fils de Merari partirent portant le tabernacle. La bannière du camp de Ruben partit avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Ruben était commandé par Elitsur, fils de Shedeur. Le corps d'armée de la tribu des fils de Siméon par Shelumiel, fils de Tsurishadai. Le corps d'armée de la tribu des fils de Gad par Eliasaph, fils de Deluel. Les Kehatites partirent, portant le sanctuaire, et l'ont dressé le tabernacle en attendant leur arrivée. La bannière du camp des fils d'Éphraïm partit, avec ses corps d'armée. Le corps d'armée d'Éphraïm était commandé par Elishama, fils d'Amihud. Le corps d'armée de la tribu des fils de Manassé, par Gamliel, fils de Pedutchar. Le corps d'armée de la tribu des fils de Benjamin par Abidan, fils de Gidéoni, la bannière du camp des fils de Dan, partit avec ses corps d'armée. Elle formait l'arrière-garde de tous les camps. Le corps d'armée de Dan était commandé par Ahiézer, fils d'Aminchédaï. Le corps d'armée de la tribu des fils d'Asser, par Pagiel, fils d'Ocran. Le corps d'armée de la tribu des fils de Nephtali, par Ahira, fils d'Enan. Tel fut l'ordre d'après lequel les enfants d'Israël se mirent en marche, selon leur corps d'armée, et c'est ainsi qu'ils partirent. Moïse dit à Orab, fils de Reuel, le Madianite, beau-père de Moïse, « Nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai. Viens avec nous, et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. » Orab lui répondit, « Je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie. » Et Moïse dit, « Ne nous quitte pas, je te prie, puisque tu connais les lieux où nous campons, dans le désert, tu nous serviras de guide. Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. » Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour lorsqu'ils partaient du camp. Quand l'arche partait, Moïse disait « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » Et quand on la posait, il disait « Reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. » Version, lui second. Les trompettes sont pour le rassemblement du peuple d'Israël, pour n'importe quel but. Le texte traite aussi de l'ordre de marche par toutes les tribus. La nation d'Israël est sous l'ange de l'Éternel, leur Messie, de jour et de nuit, tel que vu dans Nombre chapitre 13. Ce chapitre est aussi traité dans l'étude La Loi et le Premier Commandement, étude numéro 253. Les hommes sont envoyés pour évaluer la terre promise de Canaan. Leur rapport est que le pays est bon, mais ils ont eu peur des habitants. Le Seigneur Dieu donne la victoire, mais les chefs de tribu ont perdu leur droit d'entrée dans la terre promise par lâcheté. Les opérations normales de la guerre. Il est permis de tuer pour la défense de sa nation ou de sa maison. Dieu est avec le défenseur. Il y a quelques catégories de gens qui sont exclus. Comparez l'étude de Deutéronome chapitre 20, étude numéro 201. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 20, versets 1 à 20. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, « Écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis, que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux, car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. » Les officiers parleront ensuite au peuple et diront, « Qui est-ce qui a bâti une maison neuve et ne s'y est point encore établi ? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne s'y établisse. » Qui est celui qui a planté une vigne et n'en a point encore joui, qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre n'en jouisse. Qu'est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise, qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. Les officiers continueront à parler au peuple et diront, qu'est-ce qui a peur et manque de courage, qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se décourage pas comme lui. Quand les officiers auront achevé de parler au peuple, ils placeront les chefs des troupes à la tête du peuple. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu la siégeras. Et après que l'Éternel ton Dieu l'aura livrée entre tes mains, tu en feras passer tous les mâles au fil de l'épée. Mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, et tu mangeras les dépouilles de tes ennemis que l'Éternel ton Dieu t'aura livrées. C'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées de toi et qui ne font point partie des villes de ces nations-ci. Mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel ton Dieu te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ceux qui respirent. Car tu dévoreras ces peuples par interdit, les Hétiens, les Amoréens, les Cananiens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils font pour leur Dieu, et que vous ne péchiez point contre l'Éternel votre Dieu. Si tu fais un long siège pour t'emparer d'une ville avec laquelle tu es en guerre, tu ne détruiras point les arbres en y portant la hache. Tu t'en nourriras et tu ne les abattras point. Car l'arbre, les champs, est-il un homme pour être assiégé par toi? Mais tu pourras détruire et abattre les arbres, que tu sauras ne pas être des arbres servant à la nourriture, et en construire des retranchements contre la ville qui te fait la guerre jusqu'à ce qu'elle succombe. Version 8 secondes. Le pays doit être protégé et l'environnement protégé. Seulement ceux qui adorent d'autres dieux, autres que le Seigneur, le Dieu d'Israël, doivent être détruits complètement. Les crimes de guerre. L'extermination complète d'un peuple idolâtre n'est pas un crime sous la loi de Dieu. Ils doivent être prévenus et l'occasion doit leur être donnée de se repentir, et ensuite ils doivent être exterminés s'ils ne se repentent pas. Si vous n'avez pas reçu l'ordre d'occuper leur pays, ou si vous ne voulez pas vous occuper d'eux ou les exterminer en tant que nation, vous devez les laisser tranquilles. Si nous ne les détruisons pas et au lieu de cela cohabitons avec eux dans le pays, alors notre nation sera certainement amenée à l'idolâtrie et sera elle-même détruite par la colère de Dieu. L'idolâtrie est expressément interdite en Israël et aux étrangers au sein de ses portes et est une offense capitale. Voir Deutéronome 7, versets 22 à 26. Quand une nation se repent, elle doit être traitée comme un frère et soumise aux lois de Dieu. Amalek et la guerre parmi les nations. La prophétie de Balaam a montré la fin qui s'ensuit des nations qui se sont levées contre Israël. Amalek était premier parmi les nations. Pourtant, sa fin était de périr pour toujours, tout comme les Kéniens devaient aussi périr pour toujours. Le problème de la survie sera omniprésent au temps de la fin, comme nous le voyons par les paroles de Balaam qui dit « Qui vivra ?» ou entre parenthèses « survivra ?» Quand Dieu fera cela, comparez Nombre 24, versets 20 à 24. Et des navires viendront de la côte de Kittim, et affligeront Assur, et affligeront Héber, et lui aussi ira à la destruction. Verset 24 dans la version d'Arbi. Dans ce texte, les Assyriens et les premiers Hébreux, c'est-à-dire les génériques ou pré-israélites, sont attaqués par les fils de Kittim en tant que fils de Javan, fils de Japhet. Voir Genèse 10, verset 4. Kittim était Chypre auparavant, et la côte nord de la Méditerranée. Les gens étaient aussi associés avec les Phéniciens, faisant partie des anciens seigneurs de la mer qui régnaient aussi à partir de Chypre. Ces guerres des derniers jours font penser aux guerres entre Israël et Amalek, avant qu'ils entrent dans la terre promise. Voir Exode 17, versets 8 à 16. Nous lisons dans Exode 17, versets 8 à 16. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combats Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. » Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. Version 8 secondes. Amalek frappa les faibles et les chancelants et n'avait aucune crainte de Dieu. Voir Deutéronome 25, versets 17 à 19.
L'alliance entière est exposée dans Psaume chapitre 83. Toutes les branches de ces nations conspirent pour éliminer Israël. Il y a 10 nations en tout, comme l'union des 10 rois, Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Guébal, Amon et Amalek, les Philistins et les habitants de Tyr et les Assyriens se joignent à eux. Voir Psaume 83, versets 5 à 8. Dieu a ordonné leur destruction complète. Voir 1 Samuel 15, versets 2 à 3, 1 Samuel 28, verset 18. Mais cela n'a pas été fait, et donc ils ont presque détruit Juda. Comparer Esther 3, versets 7 à 9, verset 10. En tout ceci, la sagesse, en tant que l'observance des commandements de Dieu, est la clé pour la prolongation de la vie. Et Israël est protégé par le pouvoir de Dieu. Voir Proverbe 4, versets 1 à 27. Le traitement des femmes captives. Les femmes capturées à la guerre peuvent seulement être prises comme épouses, comme faisant partie de la nation d'Israël. Elles ne peuvent pas être utilisées comme prostituées ou pour un mauvais but. Une fois qu'elles sont prises pour femmes, elles ne doivent pas être vendues comme esclaves. Nous lisons dans Deutéronome 21, versets 10 à 14. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains, et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être verras-tu parmi les captives une femme belle de figure, et auras-tu le désir de la prendre pour femme, alors tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison, elle se rasera la tête et se fera les ongles, elle quittera les vêtements qu'elle portait quand elle a été prise, elle demeurera dans ta maison, et elle pleurera son père et sa mère pendant un mois. Après cela, tu iras vers elle, tu l'auras en ta possession, et elle sera ta femme. Si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra. Tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent, ni la traiter comme esclave, parce que tu l'auras humiliée. Version 8 secondes. La division du pays. Nous lisons dans Nombre chapitre 33, versets 1 à 56. Voici les stations des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte selon leur corps d'armée, sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Moïse écrivit leur marche de station en station, d'après l'ordre de l'Éternel, et voici leur station selon leur marche. Ils partirent de Ramsès le premier mois, le 15e jour du premier mois. Le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent la main levée, à la vue de tous les Égyptiens. Et les Égyptiens enterraient ceux que l'Éternel avait frappés parmi eux, tous les premiers-nés. L'Éternel exerçait aussi des jugements contre leur Dieu. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès et campèrent à Soukhot. Ils partirent de Soukhot et campèrent à Étham, qui est à l'extrémité du désert. Ils partirent d'Étham, se détournèrent vers Pihairot, vis-à-vis de Baal-Tsephon, et campèrent devant Migdol. Ils partirent de devant Pihairot et passèrent au milieu de la mer dans la direction du désert. Ils firent 3 journées de marche dans le désert d'Étham et campèrent à Mara. Ils partirent de Mara et arrivèrent à Élim. Il y avait à Élim 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ce fut là qu'ils campèrent. Ils partirent d'Élim et campèrent près de la mer Rouge. Ils partirent de la mer Rouge et campèrent dans le désert de Sin. Ils partirent du désert de Sin et campèrent à Dovka. Ils partirent de Dovka et campèrent à Alushk. Ils partirent d'Alushk et campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Ils partirent de Rephidim et campèrent dans le désert de Sinaï. Ils partirent du désert du Sinaï et campèrent à Kibroth Hataava. Ils partirent de Kibroth Hataava et campèrent à Hatzeroth. Ils partirent de Hatzeroth et campèrent à Ritma. Ils partirent de Ritma et campèrent à Rimon-Péré. Ils partirent de Rimon-Péré et campèrent à Libna. Ils partirent de Libna et campèrent à Rissa. Ils partirent de Rissa et campèrent à Kehilata. Ils partirent de Kehilata et campèrent à la montagne de Shkarfer. Ils partirent de la montagne d'Escafer et campèrent à Arada. Ils partirent de Arada et campèrent à Makhelot. Ils partirent de Makhelot et campèrent à Tahat. Ils partirent de Tahat et campèrent à Tarak. Ils partirent de Tarak et campèrent à Mitka. Ils partirent de Mitka et campèrent à Ashkmona. Ils partirent de Ashkmona et campèrent à Motserot. Ils partirent de Motserot et campèrent à Bene Jaakan. Ils partirent de Bene-Jaakan et campèrent à Or-Gidda. Ils partirent de Or-Gidgad et campèrent à Jotbata. Ils partirent de Jotbata et campèrent à Abrona. Ils partirent d'Abrona et campèrent à Etzon-John, Geber. Ils partirent d'Etzon, Geber et campèrent dans le désert de Tzin, c'est Kadès. Ils partirent de Kadès et campèrent à la montagne de Hor, à l'extrémité du pays d'Edom. Le sacrificateur Aaron monta sur la montagne de Hor, suivant l'ordre de l'Éternel, et il y mourut la 40e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, le 5e mois, le premier jour du mois. Aaron était âgé de 123 ans lorsqu'il mourut sur la montagne de Hor. Le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le midi du pays de Canaan, apprit l'arrivée des enfants d'Israël. Ils partirent de la montagne de Hor et campèrent à Tsalmona. Et ils partirent de Tsalmona et campèrent à Punon. Ils partirent de Punon et campèrent à Bot. Ils partirent d'Obot et campèrent à Idjé-Abarim sur la frontière de Moab. Ils partirent d'Idjé-Abarim et campèrent à Dibongad. Ils partirent de Dibongad et campèrent à Almon d'Iblataïm. Ils partirent d'Almon d'Iblataïm et campèrent aux montagnes d'Abarim devant Nebo. Ils partirent des montagnes d'Abarim et campèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Ils campèrent près du Jourdain, depuis Beth Jeshimoth et jusqu'à Abel-Sittim, dans les plaines de Moab. L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays, vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images de fonte, et vous détruirez tous leurs hauts lieux. Vous prendrez possession du pays, et vous vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Vous partagerez le pays par le sort selon vos familles. À ceux qui sont en plus grand nombre, vous donnerez une portion plus grande, et à ceux qui sont en plus petit nombre, vous donnerez une portion plus petite. Chacun possédera ce qui lui sera écu par le sort. Vous le recevrez en propriété selon les tribus de vos pères. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés et seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Et il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. » Version Louis II. Ici, les voyages depuis l'Égypte sont décrits. Nous lisons dans Nombre 32, versets 1 à 42. « Les fils de Ruben et les fils de Gad avaient une quantité considérable de troupeaux, et ils virent que le pays de Jaézer et le pays de Galaad étaient un lieu propre pour des troupeaux. Alors les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent auprès de Moïse, du sacrificateur Éléazar et des princes de l'assemblée, et ils leur dirent, « Atarot, Dibon, Jaézer, Nimra, Esbon, Éléalé, Sebam, Nebo et Béon, ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël, est un lieu propre pour des troupeaux, et tes serviteurs ont des troupeaux. » Ils ajoutèrent, « Si nous avons trouvé grâce à tes yeux que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs, et ne nous fait point passer le Jourdain. » Moïse répondit aux fils de Gad et aux fils de Ruben, « Vos frères iront-ils à la guerre, et vous resterez-vous ici? Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne? Ainsi firent vos pères, quand je les envoyai de Kadès Barnéa pour examiner le pays. Ils montèrent jusqu'à la vallée d'Eshkol, et après avoir examiné le pays, ils découragèrent les enfants d'Israël d'aller dans le pays que l'Éternel leur donnait. La colère de l'Éternel s'enflamma ce jour-là, et il jura en disant, « Ces hommes qui sont montés d'Égypte, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie. Excepté Caleb, fils de Jephunné, le Kénésien, et Josué, fils de Noun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. » La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les fit errer dans le désert pendant 40 années, jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Et voici, vous prenez la place de vos pères, comme des rejetons d'hommes pécheurs, pour rendre la colère de l'Éternel encore plus ardente contre Israël. Car si vous vous détournez de lui, il continuera de laisser Israël au désert, et vous causerez la perte de tout ce peuple. Ils s'approchèrent de Moïse, et ils dirent, « Nous construirons ici des parcs pour nos troupeaux, et des villes pour nos petits-enfants. » Puis nous nous équiperons en hâte pour marcher devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous les ayons introduits dans le lieu qui leur est destiné. Et nos petits-enfants demeureront dans les villes fortes à cause des habitants du pays. Nous ne retournerons point dans nos maisons avant que les enfants d'Israël aient pris possession chacun de son héritage. Et nous ne posséderons rien avec eux de l'autre côté du Jourdain, ni plus loin, puisque nous aurons notre héritage de ce côté-ci du Jourdain à l'Orient. Moïse leur dit, si vous faites cela, si vous vous armez pour combattre devant l'Éternel, si tous ceux de vous qui s'armeront passent le Jourdain devant l'Éternel jusqu'à ce qu'il ait chassé ses ennemis loin de sa face, et si vous revenez seulement après que le pays aura été soumis devant l'Éternel, vous serez alors sans reproche vis-à-vis de l'Éternel et vis-à-vis d'Israël. Et cette contrée-ci sera votre propriété devant l'Éternel. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel, sachez que votre péché vous atteindra. Construisez des villes pour vos petits-enfants et des parcs pour vos troupeaux, et faites ce que votre bouche a déclaré. Les fils de Gad et les fils de Ruben dirent à Moïse, « Tes serviteurs feront ce que mon Seigneur ordonne. Nos petits-enfants, nos femmes, nos troupeaux et tout notre bétail resteront dans les villes de Galaad. Et tes serviteurs, tous armés pour la guerre, iront combattre devant l'Éternel, comme dit mon Seigneur. » Moïse donna des ordres à leur sujet, au sacrificateur Éléazar, à Josué, fils de Noun, et aux chefs de famille dans les tribus des enfants d'Israël. Il leur dit, « Si les fils de Gad et les fils de Ruben passent avec vous le Jourdain, tous armés pour combattre devant l'Éternel, et que le pays soit soumis devant vous, vous leur donnerez en propriété la contrée de Galaad. Et s'ils ne marchent point en armes avec vous, qu'ils s'établissent au milieu de vous dans le pays de Canaan. » Les fils de Gad et les fils de Ruben répondirent, « Nous ferons ce que l'Éternel a dit à ses serviteurs. Nous passerons en armes devant l'Éternel au pays de Canaan, mais que nous possédions notre héritage de ce côté-ci du Jourdain. » Moïse donna aux fils de Gad et aux fils de Ruben et à la moitié de la tribu de Manassé, fils de Joseph, le royaume de Sion, roi des Amoréens, et le royaume d'Og, roi de Bazan, le pays avec ses villes, avec les territoires des villes du pays tout alentour. Les fils de Gad bâtirent Dibon, Hatarot, Aroer, Atrot, Shkofan, Jaizer, Jobebha, Beth-Nimra et Beth-Haran, ville forte, et ils firent des parcs pour les troupeaux. Les fils de Ruben bâtirent Hesbon, Héléalé et Kirjataïm, Nebo et Balaam-Méon, dont les noms furent changés, et Sidma, et ils donnèrent des noms aux villes qu'ils bâtirent. Les fils de Makir, fils de Manassé, marchèrent contre Galaad et s'en emparèrent. Ils chassèrent les Amoréens qui y étaient. Moïse donna Galaad à Makir, fils de Manassé, qui s'y établit. Jaïr, fils de Manassé, se mit en marche, prit les bourgs et les appela bourgs de Jaïr. Nobak se mit en marche, prit Kénath avec les villes de son ressort et l'appela Nobak d'après son nom. Dans ce texte, Manassé, Ruben et Gad reçoivent leur héritage en dehors d'Israël, mais ils devaient prendre part à la guerre d'occupation. Il en sera de même ainsi dans les derniers jours. L'échec de prendre part signifie la séparation d'Israël sous le Messie. Nous lisons dans Nombre 34, verset 1 à 29, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur, « Quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, ce pays deviendra votre héritage, le pays de Canaan, dont voici les limites. » Le côté du Midi commencera au désert de Tin, près d'Édom. Ainsi, votre limite méridionale partira de l'extrémité de la mer Salée vers l'Orient. Elle tournera au sud de la montée d'Akrabim, passera par Tin et s'étendra jusqu'au Midi de Kadès-Barnéa. Elle continuera par Hatsar-Adar et passera vers Hatsom. Depuis Hatsmon, elle tournera jusqu'au torrent d'Agip pour aboutir à la mer. Votre limite occidentale sera la Grande Mer. Ce sera votre limite à l'Occident. Voici quelle sera votre limite septentrionale. À partir de la Grande Mer, vous la tracerez jusqu'à la montagne de Hor. Depuis la montagne de Hor, vous la ferez passer par Hamax et arriver à Tsefdad. Elles continueront par Ziphron pour aboutir à Hatsar-Enan. Ce sera votre limite au septentrion. Vous tracerez votre limite orientale de Hatsar-Enan à Shkefam. Elle descendra de Shkefam vers Ribla, à l'Orient d'Aïm. Elle descendra et s'étendra le long de la mer de Kénéret, à l'Orient. Elle descendra encore vers le Jourdain pour aboutir à la mer Salée. tel sera votre pays avec ses limites tout autour. Moïse transmit cet ordre aux enfants d'Israël et dit, c'est là le pays que vous partagerez par le sort et que l'Éternel a résolu de donner aux 9 tribus et à la demi-tribu, car la tribu des fils de Ruben et la tribu des fils de Gad ont pris leur héritage selon les maisons de leur père. La demi-tribu de Manassé a aussi pris son héritage. Ces 2 tribus et la demi-tribu ont pris leur héritage en deçà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho du côté de l'Orient. L'Éternel parla à Moïse et dit, voici les noms des hommes qui partageront entre vous le pays, le sacrificateur Éléazar et Josué fils de Noun. Vous prendrez encore un prince de chaque tribu pour faire le partage du pays. Voici les noms de ces hommes. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephunné. Pour la tribu des fils de Siméon, Samuel, fils d'Amihud. Pour la tribu de Benjamin, Elidab, fils de Kishlon. Pour la tribu du fils de Dan, le prince Buki, fils de Jogli. Pour les fils de Joseph, pour la tribu des fils de Manassé, le prince Haniel, fils d'Éphod. Et pour la tribu des fils d'Éphraïm, le prince Kemuel, fils de Shkiftan. Pour la tribu des fils de Zabulon, le prince Elitsaphan, fils de Parnac. Pour la tribu des fils d'Issacar, le prince Paltiel, fils d'Azan. Pour la tribu des fils d'Asser, le prince Ahiud, fils de Shkelomi. Pour la tribu des fils de Nephtali, le prince Pédaël, fils d'Amihud. Tels sont ceux à qui l'Éternel ordonna de partager le pays de Canaan entre les enfants d'Israël.
Version 8 secondes.
Les frontières du pays sont détaillées dans ce chapitre. Les régions sont divisées et tirées au sort pour l'héritage de chaque tribu. Ainsi, la division du pays est faite par l'intermédiaire d'un représentant de chaque tribu et est faite selon le nombre de chaque tribu. Les frontières de la nation sont élargies dans les derniers jours jusqu'à la grande rivière de l'Euphrate et vers l'est de la Palestine. Les nations du Jourdain sont absorbées dans la nation d'Israël où deviennent ses alliés. Voir Ésaïe 11, versets 1 à 16. L'héritage et les bornes. La question de l'héritage et des bornes en est une de préservation des moyens de subsistance des familles et des tribus. C'est une malédiction de les enlever, ou leur contenu, ou d'entrer dans les champs de ceux qui ont perdu leur père, car leur sauveur est puissant et il va plaider leur cause. Voir Deutéronome 27, verset 17, Job 24, verset 2, Proverbe 22, verset 28, Proverbe 23, verset 10 à 11, Osée 5, verset 10. Ces questions sont traitées dans les études de la loi et le quatrième commandement, étude numéro 256, et aussi la loi et le cinquième commandement, étude numéro 258. Ces villes des Lévites pour leur subsistance. Le sacerdoce doit recevoir des villes pour sa subsistance. Ces provisions seront de nouveau faites dans la restauration. Ainsi de même, Dan prendra son héritage en tant que juge d'Israël, voir Genèse 49, verset 16, et affectera aussi la distribution. Nous lisons dans Nombre chapitre 35, verset 1 à 8. L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit, ordonne aux enfants d'Israël d'accorder aux Lévites, sur l'héritage qu'ils posséderont, des villes où ils puissent habiter. Vous donnerez aussi aux Lévites une banlieue autour de ces villes. Ils auront les villes pour y habiter. Et les banlieues seront pour leur bétail, pour leurs biens et pour tous leurs animaux. Les banlieues des villes que vous donnerez aux Lévites, auront, à partir du mur de la ville et au dehors, 1000 coudées tout autour. Vous mesurerez, en dehors de la ville, 2000 coudées pour le côté oriental, 2000 coudées pour le côté méridional, 2000 coudées pour le côté occidental et 2000 coudées pour le côté septentrional. La ville sera au milieu, telles seront les banlieues de leur ville. Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura 6 villes de refuge où pourra s'enfuir les meurtriers, et 42 autres villes. Total des villes que vous donnerez aux Lévites, 48 villes avec leurs banlieues. Les villes que vous donnerez sur les propriétés des enfants d'Israël seront livrées en plus grand nombre par ceux qui en ont le plus, et en plus petit nombre par ceux qui en ont moins. Chacun donnera de ces villes aux Lévites à proportion de l'héritage qu'il possédera. Comparez aussi Lévitique 25, versets 32 à 34. Le meurtre et les villes de refuge. Nous lisons dans Nombre 35, versets 9 à 15. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que le meurtrier ne soit point mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Des villes que vous donnerez, 6 seront pour vous des villes de refuge. Vous donnerez 3 villes au-delà du Jourdain, et vous donnerez 3 villes dans le pays de Canaan, ce seront des villes de refuge. Ces 6 villes serviront de refuge aux enfants d'Israël, à l'étranger et à celui qui demeure au milieu de vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Version 8 secondes. Un homicide accidentel est ainsi pris en compte, et les gens doivent être protégés de la tuerie par vengeance. Cependant, pour le crime de meurtre prémédité, la mort de l'assassin est le produit final et la sanction finale de la loi. Nous lisons dans Nombre 35, versets 16 à 21. Si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe tenant à la main une pierre qui puisse causer la mort et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe tenant à la main un instrument de bois qui puisse causer la mort et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier. Quand il le rencontrera, il le tuera. Si un homme pousse son prochain par un mouvement de haine, ou s'il jette quelque chose sur lui avec préméditation et que la mort en soit la suite, ou s'il frappe de sa main par inimitié et que la mort en soit la suite, celui qui a frappé sera puni de mort, c'est un meurtrier. Le vengeur du sang tuera le meurtrier quand il le rencontrera. Version 8 secondes. L'homicide accidentel. Nous lisons dans Nombre 35, versets 22 à 34. Mais si un homme pousse son prochain subitement, et non par inimitié, ou s'il jette quelque chose sur lui sans préméditation, ou s'il fait tomber sur lui par mégarde une pierre qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite, sans qu'il ait de la haine contre lui et qu'il lui cherche du mal, voici les lois d'après lesquelles l'assemblée jugera entre celui qui a frappé et le vengeur du sang. L'assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur du sang et le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfui. Il y demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur qu'on a oint de l'huile sainte. Si le meurtrier sort du territoire de la ville de refuge où il s'est enfui, et si le vengeur du sang le rencontre hors du territoire de la ville de refuge et qu'il tue le meurtrier, il ne sera point coupable de meurtre, car le meurtrier doit demeurer dans sa ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Et après la mort du souverain sacrificateur, il pourra retourner dans sa propriété. Voici des ordonnances de droit pour vous et pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Si un homme tue quelqu'un, on ôtera la vie au meurtrier sur la déposition de témoins. Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort. Vous n'accepterez point de rançon pour la vie d'un meurtrier qui mérite la mort, car il sera puni de mort. Vous n'accepterez point de rançon qui lui permette de s'enfuir dans sa ville de refuge et de retourner habiter dans le pays après la mort du sacrificateur. Vous ne souillerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays, et il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui y sera répandu que par le sang de celui qui l'aura répandu. Vous ne souillerez point le pays où vous allez demeurer et au milieu duquel j'habiterai, car je suis l'Éternel qui habite au milieu des enfants d'Israël. Version 8 secondes. Il y a une pénalité pour l'homicide involontaire. Le meurtrier est banni à la ville de refuge pour la durée de la vie du sacrificateur. À la mort du sacrificateur, qui a participé dans le jugement ou au jugement de la ville de refuge, la personne peut alors retourner à sa résidence. Cette sentence ne peut être rachetée. Nous voyons aussi qu'il y a un autre aspect à cela dans l'Exode. Nous lisons dans Exode chapitre 2, versets 11 à 15. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Penses-tu me tuer, comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé, et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon, et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits.
version Louis II.
Tuer par intervention sans autorité est aussi une violation de la loi. La cité de refuge a été imposée à Moïse comme punition, de façon similaire à la loi de Dieu dans la Torah. Il n'est pas resté jusqu'à la mort du sacrificateur, Jéthro étant sacrificateur de Madian, mais Dieu a appelé Moïse et l'a renvoyé en Égypte. Donc, Moïse était toujours soumis aux lois de Dieu, même en Égypte. Cependant, il a été excusé, à court terme, pour son ignorance. La mort par accident ou une cause inconnue. Nous lisons dans Deutéronome 21, verset 1 à 9. Si dans le pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession, l'on trouve étendu au milieu d'un champ un homme tué, sans que l'on sache qui l'a frappé, tes anciens et tes juges iront mesurer les distances à partir du cadavre jusqu'aux villes des environs. Quand on aura déterminé la ville la plus rapprochée du cadavre, les anciens de cette ville prendront une génisse qui n'est point servie au travail et qui n'est point tirée au jour. Ils feront descendre cette génisse vers un torrent qui jamais ne tarisse et où il n'y avait ni culture ni semence. Et là, ils briseront la nuque à la génisse dans le torrent. Alors s'approcheront les sacrificateurs fils de Lévi, car l'Éternel, ton Dieu, les a choisis pour qu'ils le servent et qu'ils bénissent au nom de l'Éternel. Et ce sont eux qui doivent prononcer sur toute contestation et sur toute blessure. Tous les anciens de cette ville la plus rapprochée du cadavre laveront leurs mains sur la génisse à laquelle on a brisé la nuque dans le torrent. Et prenant la parole, ils diront « Nos mains n'ont point répandu ce sang, et nos yeux ne l'ont point vu répandre. Pardonne, ô Éternel, à ton peuple d'Israël que tu as racheté. N'impute pas le sang innocent à ton peuple d'Israël, et ce sang ne lui sera point imputé. Ainsi tu dois faire disparaître du milieu de toi le sang innocent, en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. » Version Louis II. De ce texte, nous voyons que chaque localité est spécialement responsable aux yeux de Dieu pour l'exécution de la justice, la préservation de la vie et le contrôle de la loi dans sa propre localité. Il y a ainsi des limites à l'intérieur de la juridiction. La restitution ou la restauration. La restitution ou la restauration n'est pas une fonction de certains aspects du sixième commandement, alors qu'elle forme le soutien de la loi. Toutefois, le sang paie pour le sang, en tant qu'une règle sous ce commandement. Il y aura un temps pour la restitution de toutes choses. Cela se produira sous le Messie, que le ciel a reçu jusqu'à ce temps-là. Tous ceux qui n'écoutent pas ce prophète seront détruits du peuple. Voir Deutéronome 18, verset 15 à 19, acte 3, verset 21 à 23. Le Messie est suivi par les 12 apôtres, sur 12 trônes, voir Matthieu 19, verset 28. La restitution est faite pour les violations des autres commandements, et si elle n'est pas faite, alors le larron, ou le repris de justice, est vendu pour la restitution. Il devient alors sujet à la servitude en dédommagement. Ainsi, l'État doit offrir de l'emploi rémunéré pour restaurer la propriété perdue par le crime. Si le criminel ne veut pas travailler en servitude, alors sa vie est prise sous ce commandement. Les amendes de la transgression contre Dieu tombent aussi dans cette catégorie. Comparez Exode 22, verset 1 à 17, Deutéronome 22, verset 19, verset 29, Nombre 5, verset 6 à 8, Lévitique 5, verset 14 à 19, 2 Rois 3, verset 4. Les détails sur les amendes sont trouvés dans les autres textes sur la loi. Par exemple, la loi et le 7e commandement, étude numéro 260, et la loi et le 8e commandement, étude numéro 261. Application de la loi. Il n'y a qu'une loi pour tous. Nous lisons dans Nombre 15, versets 29 à 31. Pour l'indigène parmi les enfants d'Israël, et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, il y aura pour vous une même loi quand on pêchera involontairement. Mais si quelqu'un, indigène ou étranger, agit la main levée, il outrage l'Éternel, celui-là sera retranché du milieu de son peuple. Il a méprisé la parole de l'Éternel, et il a violé son commandement. Celui-là sera retranché, il portera la peine de son iniquité. Version Louis II. L'outrage au magistrat et à la loi de Dieu, par le fait même, entraîne la peine de mort à la fin. Nous lisons en Deutéronome chapitre 17, versets 12 à 13. L'homme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël, afin que tout le peuple entende et craigne
et qu'il ne se livre plus à l'orgueil. Version 8 secondes.
La peine de mort. L'homme a été fait à l'image de Dieu, et quiconque verse le sang de l'homme doit être tué par l'homme. Voir Genèse 9, versets 5 à 6. La peine de mort est spécifiée dans certaines circonstances. Comparez Lévitique 20, versets 1 à 27, Lévitique chapitre 24, versets 10 à 23, Nombre 15, versets 29 à 31, Deutéronome 17, versets 12 à 13. Toutes ces choses sont faites pour que nous puissions apprendre à craindre Dieu et ses lois, étant sous sa protection et justice, et son alliance à l'intérieur de son temple. Voir Deutéronome 8, verset 6, Exode 12, verset 15 à 19, Genèse 17, verset 14, Exode 3, verset 14, Lévitique 17, verset 8. La personne qui maudit son père ou sa mère mourra sans enfant, et de là, sa progéniture est coupée ou mourra de la mort. Voir Proverbe 20, verset 20, Matthieu 15, verset 4, Marc 7, verset 10. La peine de mort est encourue pour l'enlèvement ou kidnapping pour le gain. Voir Deutéronome 24, verset 7. La peine de mort est encourue pour l'adultère. Voir Deutéronome 22, verset 22 à 24. Pour le viol forcé d'une femme fiancée ou mariée. Voir Deutéronome 22, verset 25 à 27. La peine de mort est encourue pour les actes homosexuels. Voir Lévitique 20, verset 13. Pour la sorcellerie ou la bestialité ou le fait de sacrifier à de faux dieux. Voir Exode 22, verset 18 à 20. La peine de mort est encourue pour l'attitude rebelle contre ses parents. Voir Deutéronome 21, verset 18 à 21. Pour l'infraction du sabbat. Voir Exode 35, verset 2. Nombre 15, verset 32 à 36. La peine de mort est encourue pour la fausse prophétie en enseignant la diminution des lois de Dieu. Voir Deutéronome 13, verset 1 à 10. Pour l'outrage au magistrat en négligeant d'appliquer la sentence. Voir Deutéronome 17, verset 8 à 13. La peine de mort est encourue pour un fils qui est un voleur, ou un briseur de l'alliance, ou un qui est idolâtre, ou adultère, ou qui opprime le pauvre, et celui dans le besoin, ou qui dépouille par la violence, ou par l'usure, ou d'autres méthodes semblables. Voir Ézéchiel 18, versets 10 à 13. Les témoins étendent un piège. Aucune personne ne doit être mise à mort, sauf sur la déposition de deux ou de trois témoins. Voir Deutéronome 17, verset 6. Aucune personne ne doit être mise à mort sur la déposition d'un seul témoin, et aucun témoin ne doit se retourner contre une personne pour quelque péché que ce soit. Comparez Deutéronome 19, verset 15. Les mains des témoins seront sur lui en premier. En d'autres termes, les témoins doivent participer au processus d'exécution. Voir Deutéronome 17, verset 7. Ainsi, à partir de ce concept dans les textes de mentir pour tendre un piège aux autres, nous voyons que tendre un piège est une offense, comme l'est la calomnie. Ils ne sont que des aspects différents du même péché, et ils essaient de détruire l'individu par des moyens divers. Les types d'exécution. Il y a différents types d'exécution spécifiés dans la Bible. 1. Par le feu, voir Lévitique 20, verset 14, 21, verset 9. Par lapidation, voir Lévitique 20, verset 1, verset 27. Lévitique 24, verset 14, Deutéronome 21, verset 21. Par la pendaison, voir Deutéronome 21, verset 22 à 23, Josué 8, verset 29. Par l'épée, voir Exode 32, verset 27 à 28. Les systèmes d'exécution doivent être faits d'une manière exemplaire, et ils ne sont pas obligatoires pour une première offense, excepté en relation avec le sixième commandement. Le mauvais usage des lois de l'évidence et l'implémentation des traditions pharisaïques sont une violation de la loi biblique. Par exemple, la Bible dit qu'aucune personne ne peut être exécutée sur la déposition d'un seul témoin, tandis que les traditions disent qu'un témoin est suffisant. Quiconque exécute le Talmud en opposition aux instructions expresses de la Bible a commis une offense capitale. La mauvaise application de la peine de mort. L'ordre de tuer pour la destruction de votre propre peuple ne doit pas être obéi. Nous lisons dans Exode chapitre 1 verset 15 à 16, le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Skifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Version 8 secondes. Cette politique a été préconisée par certains cultes religieux nationaux ce siècle-ci, autant en Europe qu'en Asie. Nous lisons dans Exode 1, verset 22. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. » Version Louis II. La miséricorde et la justice. La mise en application de la loi est en fonction des maximes de la miséricorde et de la justice. Et Christ a montré exactement comment la loi doit être exécutée. La peine de mort, par exemple en rapport à l'adultère, n'était pas obligatoire, mais elle l'était seulement lorsque le péché est répété, dans le défi impénitent de la loi. Chaque commandement entraîne la peine de mort afin de montrer la force égale de la loi dans tous les aspects. Ce n'est que dans le sixième commandement que la peine de mort est obligatoire, mais seulement dans certaines circonstances. Les paroles de Christ déclarent que c'est l'intention de la loi, voire Jean 8, verset 7. La loi doit être administrée avec miséricorde et justice, sans malice d'exécution, ni par ceux qui mentent en tendant des pièges pour prendre avantage des autres. L'idolâtrie est expressément interdite à Israël ou aux étrangers à l'intérieur de son territoire, et elle est une offense capitale. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 7, versets 22 à 26. « L'Éternel, ton Dieu, chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. L'Éternel, ton Dieu, te les livrera, et il les mettra complètement en déroute jusqu'à ce qu'elles soient détruites. Il livrera leur roi entre tes mains, et tu feras disparaître leur nom de dessous les cieux. Aucun ne tiendra contre toi jusqu'à ce que tu les aies détruits. Vous brûlerez au feu les images taillées de leur dieu, tu ne convoiteras point, et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. » Version Louis II. La punition pour le péché est le droit à la vie sous la loi. Aucun enfant ne doit être mis à mort pour les péchés du père, mais tout homme doit être mis à mort pour son propre péché. Voir Deutéronome 24, versets 16 à 17, 2 Rois 14, verset 6. Aucune personne qui se sauve de l'esclavage ne doit être retournée à son maître ou à sa maîtresse. Les réfugiés doivent avoir un lieu pour vivre dans les portes des villes, à l'endroit de leur choix, et ils ne doivent pas être opprimés. Ils doivent avoir le droit de vivre sous la loi de Dieu. Voir Deutéronome 23, verset 15 à 16. Le témoignage pour la peine de mort est sa nature obligatoire. La peine de mort est obligatoire dans le cas de meurtre prémédité, et l'exil à la ville de refuge est obligatoire pour l'homicide accidentel, pour la durée de la vie du sacrificateur impliqué dans la ville de refuge. Pour le crime de meurtre, la mort de l'assassin est le produit final et la sanction finale de la loi. Nous lisons dans Nombre 36, verset 13, « Tels sont les commandements et les lois que l'Éternel donna par Moïse aux enfants d'Israël, dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. » Version Louis II. Quand tuer n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime de tuer si c'est fait conformément à la loi de Dieu, comme mentionné plus tôt. Nous lisons dans Exode 4, verset 24. « Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. » Version Louis II. Dieu a montré son intention ici de détruire Moïse parce qu'il n'avait pas obéi à l'alliance en relation avec la circoncision de son fils. Au cours des siècles, Dieu a causé la mort des gens en tant qu'exemple pour nous. Il n'y a aucun péché dans l'exécution de la loi concernant la peine de mort, car l'être qui exécutait la loi de Dieu était le Messie, qui était et qui est sans péché. La protection du tabernacle et les droits et les devoirs du service de Dieu font aussi partie de la loi. Nous lisons dans Nombre chapitre 18, verset 22, « Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation, de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. » Version Louis II. Cette législation, pointée vers le nouveau temple et la séparation des élus dans l'ordre de Melchisédek de la société, la modification de la loi élimine l'individu de la première résurrection à la deuxième résurrection. Le temple a été enlevé et le nouveau temple est fait de pierres vivantes. Il est permis de tuer une personne dans la défense de sa propriété ou dans l'exécution des ordres juridiques faits à la suite de la loi en tant que conséquence du crime et punition. L'exécution dans les deux cas n'est pas un péché, ni est une violation de l'intention du sixième commandement. Les villes de refuge et la législation concernant l'homicide accidentel ne sauvent pas l'assassin, même si l'individu s'accroche à l'autel de Dieu. Ce n'est pas une interdiction d'exécuter la justice. Nous lisons dans Exode chapitre 21, versets 12 à 14. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. S'il ne lui a point dressé d'embûche et que Dieu l'ait fait tomber sous sa main, je t'établirai un lieu où il pourra se réfugier. Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain, en employant la ruse pour le tuer, tu l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir. Version du second. L'interdiction de manger la viande d'un bœuf qui a blessé quelqu'un d'un coup de corne est afin de rendre sa chair inutilisable et par conséquent décourager les gens d'utiliser et de garder des animaux dangereux. Dans les cas où le propriétaire garde sciemment des animaux dangereux, alors celui-ci est aussi coupable et doit être jugé. Cela s'applique aux chiens et aux autres animaux domestiques. Les animaux sauvages gardés dans les eaux sont une autre affaire, puisque leur intention est de tuer et de ne pas se faire tuer. La responsabilité dans ce cas se limite à la mort de l'animal et au dédommagement. Nous lisons dans Exode chapitre 21, versets 28 à 36, « Si un bœuf frappe de ses cornes un homme ou une femme, et que la mort en soit la suite, le bœuf sera lapidé, sa chair ne sera point mangée, et le maître du bœuf ne sera point puni. Mais si le bœuf était auparavant sujet à frapper, et qu'on en ait averti le maître, qui ne l'a point surveillé, le bœuf sera lapidé dans le cas où il tuerait un homme ou une femme, et son maître sera puni de mort. Si on impose au maître un prix pour le rachat de sa vie, il paiera tout ce qui lui sera imposé. Lorsque le bœuf frappera un fils ou une fille, cette loi recevra son application. L'échec de payer les dommages tels que déterminés est en échange de la vie. Les dommages se limitent aux possessions de l'individu qui est tout ce qui lui sera imposé. Nous poursuivons au verset 32. Mais si le bœuf frappe un esclave, homme ou femme, on donnera 30 sicles d'argent au maître de l'esclave et le bœuf sera lapidé. Le dédommagement aux employés est mentionné ici comme le prix d'un esclave, 30 pièces d'argent. L'argent est payé au propriétaire du serviteur qui est responsable de son bien-être à long terme. Ainsi, le paiement ne permet pas simplement d'enlever la responsabilité. De cette façon, la société est responsable pour le bien-être de tous ceux dont elle a la charge. En termes de dédommagement, chacun est responsable des dédommagements pour ses propres actions. Nous poursuivons verset 33. Si un homme met à découvert une citerne, ou si un homme en creuse une et ne la couvre pas, et qu'il y tombe un bœuf ou un âne, le possesseur de la citerne paiera au maître la valeur de l'animal en argent et aura pour lui l'animal mort. Version 8 secondes. Le coût est atténué par l'animal mort. La responsabilité de sa disposition repose aussi sur la partie trouvée coupable. Ainsi, la négligence entière dans cette affaire est prise en considération. Nous poursuivons verset 35. Si le bœuf d'un homme frappe de ses cornes le bœuf d'un autre homme, et que la mort en soit la suite, ils vendront le bœuf vivant et en partageront le prix. Ils partageront aussi le bœuf mort. Version 8 secondes. Il y a ici deux façons de tuer. L'une est le résultat d'un risque normal, car les animaux sont connus de lutter par instinct, ainsi la perte est également assumée. Là où un troupeau est connu comme un problème, le propriétaire est responsable pour sa négligence. Cela s'applique aujourd'hui aux cas dans lesquels le bétail erre sur les routes et des dommages en résultent. Nous lisons dans Lévitique 24, versets 17 à 21. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Celui qui frappera un animal mortellement le remplacera vie pour vie. Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. Celui qui tuera un animal le remplacera, mais celui qui tuera un homme sera puni de mort. Version 8 secondes. Cette forme de rétribution dans la loi est pour arrêter le dommage malicieux et délibéré, mort pour mort, œil pour œil, dent pour dent. La violence doit être éliminée de notre peuple. Le cas du dommage accidentel est une autre affaire. Et ici, la perte est compensée par un dédommagement selon la gravité de l'affaire. Le cas des dommages causés par malice et en secret entraîne une malédiction sur l'auteur. Le peuple doit y consentir en disant « Amen », entre parenthèses ou vérité ou vraiment, ou qu'il en soit ainsi, consentant de la sorte au jugement. La punition s'applique toujours, mais la malédiction est ajoutée en plus. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 27, versets 24 à 25 « Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret, et tout le peuple dira « Amen ». Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent, et tout le peuple dira « Amen ». Version 8 secondes. La loi dit clairement qu'il ne doit pas y avoir de pitié dans les cas de meurtre et de malice. Nous lisons dans Deutéronome 19, verset 21 « Tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. » Version 8 secondes. La loi demande que la personne qui a été pendue à un arbre ne demeure pas toute la nuit sur cet arbre. Elle doit être enterrée ce jour-là. Cette loi a souvent été brisée par les Grecs et les Romains, et cette activité des hommes laissés pendus pendant la nuit a pénétré leur forme de christianisme. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 21, versets 22 à 23, « Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne sauras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. » Version 8 secondes. La terre ne doit pas être maudite à cause de ce barbarisme et de cette cruauté. Donc, la pendaison était considérée comme la façon normale d'exécution. L'enterrement devait être fait ce jour-là, son but étant de sauver la nation du barbarisme et de la violence en même temps. Dieu suscite un libérateur en son temps. Nous lisons dans Nombre 25, versets 7 à 9. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme, par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. Version 8 secondes. Phiné a été jugé comme juste dans l'exécution des auteurs de crimes. Alors que la nation était inactive, la plaie a été arrêtée à cause de son zèle. La leçon était « Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal » voir Exode 23, verset 2, ou « pour violer la justice ». L'idolâtrie entraîne une peine de mort obligatoire. Nous lisons dans Deutéronome 13, verset 11 à 18 « Il en sera ainsi, afin que tout Israël entende et craigne, et que l'on ne commette plus un acte aussi criminel au milieu de toi. » Si tu entends dire au sujet de l'une des villes que t'a donné pour demeure l'Éternel ton Dieu, des gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont séduit les habitants de leur ville en disant « Allons et servons d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point. » Tu feras des recherches, tu examineras, tu interrogeras avec soin. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise au milieu de toi? Alors tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de cette ville. Tu la dévoreras par interdit avec tout ce qui s'y trouvera, et tu en passeras le bétail au fil de l'épée. Tu amasseras tout le butin au milieu de la place, et tu brûleras entièrement au feu la ville avec tout son butin devant l'Éternel ton Dieu. Elle sera pour toujours un monceau de ruines. Elle ne sera jamais rebâtie. Rien de ce qui sera dévoué par interdit ne s'attachera à ta main, afin que l'Éternel revienne de l'ardeur de sa colère, qu'il te fasse miséricorde et grâce, et qu'il te multiplie, comme il a juré à tes pères, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui et en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu. Version 8 secondes. Salomon a péché et est mort d'une mort naturelle. Sa récompense cependant dépend de sa repentance. La peine de mort est administrée par la famille et les parents sont responsables pour les actions de leurs enfants. Donc les dommages occasionnés par les enfants sont la responsabilité de la famille jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Un jeune rebelle est la responsabilité des parents, et ceux-ci doivent le livrer aux magistrats pour être jugés. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 21, versets 18 à 21. « Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié. Le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, « Voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. » Version Louis II. Il est également écrit, « Ne provoquez pas vos enfants à la colère. » Voir Éphésiens 6, verset 4, Colossiens 3, verset 21. La structure du cinquième commandement est modifiée par le concept du sixième commandement. Aucun enfant ne doit être provoqué sous le cinquième commandement pour qu'il puisse être mis à mort sous le cinquième et le sixième commandement. Le parent est coupable sous le sixième commandement en invoquant la peine de mort sous le cinquième commandement. D'où l'interprétation de Paul dans Éphésiens et Colossiens. La nécessité de l'obéissance loyale est enseignée dans la famille et renforcée dans la nation, telle que vue dans Nombre 14, versets 1 à 45. Ce texte a été traité dans la section sur la loi et le premier commandement, étude numéro 253. L'obéissance à la volonté de Dieu. Le Seigneur veut l'obéissance plus que le sacrifice. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 11, versets 1 à 32. « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Reconnaissez aujourd'hui ce que l'on peut connaître et voir vos enfants, les châtiments de l'Éternel votre Dieu, sa grandeur, sa main forte et son bras étendu, ses signes et ses actes qu'il a accomplis au milieu de l'Égypte contre Pharaon, roi d'Égypte et contre tout son pays. Reconnaissez ce qu'il a fait à l'armée d'Égypte, à ses chevaux et à ses chars, comment il a fait couler sur eux les eaux de la mer Rouge lorsqu'il vous poursuivait et les a détruits pour toujours. Ce qu'il vous a fait dans le désert, jusqu'à votre arrivée en ce lieu, ce qu'il a fait à Dathan et à Abiram, fils d'Éliab, fils de Ruben, comment la terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec leurs maisons et leurs tentes et tout ce qui était à leur suite au milieu de tout Israël, car vos yeux ont vu toutes les grandes choses que l'Éternel a faites. Ainsi, vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession, et afin que vous prolongiez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, à eux et à leur postérité, pays où coule le lait et le miel. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sorti, où tu étais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mout et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasieras. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous, il fermerait les cieux et il n'y aurait point de pluie, la terre ne donnerait plus ses produits et vous péririez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lierez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et alors vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies, et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations, et vous vous rendrez maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban, et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Nul ne tiendra contre vous, l'Éternel votre Dieu répandra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi, sur tout le pays où vous marcherez. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Et lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne d'Ébal. Ces montagnes ne sont-elles pas de l'autre côté du Jourdain, derrière le chemin de l'Occident, au pays des Cananéens, qui habitent dans la plaine vis-à-vis de Gilgal, près des chaînes de Morée? Car vous allez passer le Jourdain pour entrer en possession du pays que l'Éternel votre Dieu vous donne, vous le posséderez et vous y habiterez. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les lois et les ordonnances que je vous prescris aujourd'hui. Version 8 secondes. Donc le Seigneur donne la vie, la durée de la vie et la protection sur la terre selon l'obéissance. Dans tout cela, la capacité de tuer la création a été conférée à l'homme, comparé Deutéronome 12, verset 15. L'obéissance à la volonté de Dieu est nécessaire pour la survie. La nation a été restaurée plusieurs fois, Dieu l'a aussi punie plusieurs fois, mais elle refuse toujours d'écouter. Quand Israël s'est fait offrir l'opportunité d'obtenir le salut, ils l'ont refusé et Dieu les a quittés quand ils ont ensuite voulu le faire selon leurs propres termes. Pendant 40 ans, Israël a vagabondé dans le désert, dans leur péché, et ils y sont morts. Seuls les enfants ont survécu et sont entrés dans la terre promise. Également les tribus de Juda et une partie de Lévi et de Benjamin sont aussi morts dans le désert pendant 40 jubilés. Pareillement, la multitude des tribus d'Israël, qui ne s'est pas convertie, mourut. Ils encourent tous la peine de mort, tout comme leurs pères, sont tous morts, sauf Caleb de Juda et Josué d'Éphraïm, et ils seront dans la seconde résurrection à cause de leur désobéissance. Beaucoup d'Éphraïm et des tribus ont accepté le Messie et ont fait partie des 144 000. Tous les 12 apôtres étaient de Juda et Lévi, de la région de Galilée, tandis que Paul était de Benjamin. La loi et le sixième commandement requièrent de donner la vie et de protéger la vie. L'échec d'agir sous ce commandement résulte en la destruction de la société. La loi doit être tempérée par la miséricorde et la justice. Cependant, la justice ne doit être retardée. La justice ne doit pas non plus être niée par la négligence de l'exécuter pour raison de faiblesse. La miséricorde et la tolérance ne sont pas de la faiblesse. Et la justice ne doit pas être confondue avec l'administration négligente de la loi. Fin de la lecture de l'étude La loi et le sixième commandement, étude numéro 259.